إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا وحياكم الله جميعا. استغفر الله وتوب إليه. Je ne sais pas, j'ai remarqué ça fait deux jours que يعني le micro est lourd. Il n'est pas comme d'habitude. Ensuite même explorer هذا fait des problèmes. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi ou chez tout le monde. الله أعلم. المهم aujourd'hui inshallah ta'ala on va parler de la salat. On va commencer par la salat. On a terminé les monstres, les rougis. On va commencer sur la salat inshallah ta'ala. Salat في اللغة هي الدعاء. في اللغة هي الدعاء. C'est-à-dire que la salat, le mot salat, il y a dans le din qu'est-ce que ça veut dire, et il y a dans la langue arabe qu'est-ce que ça veut dire. Dans la langue arabe, quand on dit dua, quand on dit salat, ça veut dire on dit, ça veut dire c'est dua, ça veut dire c'est dua. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Quand il te donne la zakat, salli alayhim. Ça veut dire, oud'u Allah lahum. Ça veut dire, c'est leur des du'as, des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. Le prophète alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vous invite par exemple à manger, vous devez y aller. Ensuite, si, qu'on saïm. Il a dit quand quelqu'un vous invite, vous devez y aller. Ensuite, vous voyez si ce jour-là vous avez mangé, pas de problème, donc vous mangez. Et si ce jour-là vous avez fait le siyam, quand quelqu'un vous invite, vous avez fait le siyam, ce jour-là qu'est-ce qu'on fait? Il a dit vous faites la salat. La salat c'est le doua, donc vous lui faites un doua à celui qui nous a invité. Mais bien sûr, si quelqu'un nous invite, yani spécialement nous, pas avec d'autres gens, et quand ce jour-là on fait le siyam, on doit lui dire. On doit lui dire pourquoi? Pour pas que, yani il va commencer à préparer ça, la dernière minute on lui dit, je mange par un siyam. Ça se fait pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'un cas pareil, de quelqu'un on l'a invité, et à la dernière minute il a dit un siyam, siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, kul, faqad kallafta akhak. Mange, tu as fait des problèmes à ton frère, parce qu'il a préparé, il a acheté, etc. Donc, on doit toujours dire que, par exemple, j'ai fait le jeûne aujourd'hui, par exemple, c'est pas la peine de me préparer. Ou là, si tu prépares, laisse pour le soir. Le soir, quand je mange au Maghreb. Ou bien, on y va et on mange. Donc, quand on trouve le mot salat, si c'est dans la religion, c'est quelque chose. Si c'est dans la langue, c'est autre chose. Et en général, la règle dit que à chaque fois qu'on trouve un mot comme le mot salat, puis on ne sait pas si on doit dire ici, on doit yani, se baser sur Adam Dlouli, yani, sur son sens littéraire ou sur son sens religieux. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se baser sur son sens religieux. Sauf si il y a quelque chose qui nous empêche. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour montrer aux gens la religion et non pas pour leur montrer la langue arabe. C'est pour ça à chaque fois on doit na'mal bil haqiqa shar'iyya, on doit marcher avec le sens quoi, religieux. Sauf si on ne peut pas, comme ici dans le hadith, il a dit إذا دعي أحدكم فليجيب سكاكاً به on l'invite. S'il l'aille, فإن كان مفطراً فليطعم. S'il n'a pas jeûné, qu'il mange. Ce qu'il a dit, إن كان صائماً فليصلي. Mais s'il a jeûné, يصلي. Même أنا يصلي ici. Normalement, d'après la règle, on doit dire c'est religieux. Donc, la salat dans la religion, c'est la prière. Donc, il se lève, il fait la prière, mais c'est pas ça. Pourquoi? Mais ici, ça veut dire qu'il lui fait des doigts. Il lui fait des doigts. Et c'est montré aussi dans un autre hadith. C'est pour ça que les ulama ont un peu divergé lorsqu'ils voulaient savoir quel est le moment où Allah Azza wa Jal exauce les vœux le vendredi. Car il y a un hadith qui dit que le vendredi, il y a une heure, et quelqu'un rencontre cette heure et il fait des doigts, Allah Azza wa Jal, il lui exaucera ses doigts. Alors le plus juste, c'est que cette heure, si je l'ai dit une fois, c'est le vendredi après Salat al-Asr, entre Salat al-Asr et le Maghreb, surtout la dernière heure avant le Maghreb. Mais ceux qui n'ont pas pris de cet avis ont dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim où le prophète alayhi wa sallam a dit inna fil jumu'ah, il a dit le jour du vendredi, la sa'a, il y a une heure, la yuwafiquha abdul muslim, disons, ou bien une heure ou bien un laps de temps, mais le plus sûr c'est une heure, car dans un autre hadith il a dit yom al jumu'ah isna ashara sa'a. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam inna fil jumu'ah la sa'atan, il y a le vendredi une heure, la yuwafiquha abdul muslim, ne la rencontrera pas un musulman, il ne rencontrera pas abdul muslim, un musulman, wa huwa qa'imun yusalli, yani debout en train de faire la salat. Mais il reste à savoir c'est quoi la salat ici, c'est le doua ou la salat, c'est le religieux ou bien l'autre, on va voir. Qa'imun yusalli yas'alu Allah khayran illa a'tahu Allah iyyah. Quiconque, yani des musulmans, qui rencontrera cette heure, s'il est debout en train de faire la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui exaucera ses souhaits, ou ses vœux, ou ses doigts. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, après le asr, il n'y a pas de salat. Après le asr, il n'y a pas de salat. Et ici, qu'a dit le hadith? Il a dit, wa huwa qa'imun yusalli. Donc ils ont dit, ce n'est pas l'heure de l'heure où l'asr exauce les doigts, c'est pas après la salat l'asr. Car après le salat l'asr, il n'y a pas de salat, il n'y a pas de nafila. Et le hadith a dit, il était debout en train de faire la salat. Et les autres, ceux qui ont l'avis le plus juste, ont répondu que ici la salat, c'est pas la salat, la prière. C'est comme on a dit auparavant, c'est le sens littéraire. C'est-à-dire, en train de quoi? De faire des doigts. En train de faire des doigts. Ici, c'est ça la salat. Il est en train de faire des doigts. Mais les autres ont dit, mais le hadith a dit, qa'imun. Qa'imun yusalli. Il a dit debout. C'est d'accord pour faire des doigts. Le hadith a dit debout en train de faire la salat. Donc le mot hadith debout, ça veut dire que c'est une salat, c'est pas un doigt. Et les autres ont répondu, ceux qui ont le plus juste ont répondu, ici debout ça veut pas dire debout, le contraire de assis, debout. Ici ça veut dire il insiste. Qa'im, yani il est en train d'insister. Qa'imun yusalli, insister, il insiste en faisant des doigts. Il fait des doigts en insistant. Et ils ont dit, on a un dalil où le mot qa'im, qui littéralement veut dire debout, ici veut dire insister. Il y a, où Allah Azza wa Jal a dit dans sourate Ali Imran, il a dit, wa min ahli kitab, man in ta'minhu biqintari yu'addi ilayk. Il a dit, il y a des gens, certains gens du livre, ça veut dire les juifs ou les chrétiens, à qui, si tu leur donnes un quintal, tu leur donnes un quintal, par exemple d'or, tu le laisses en dépôt, ils te le rendent. Ils te le rendent. Ils sont des gens justes. Tu leur donnes un quintal, ils te le rendent. Ou minhum, et d'autres, man in ta'minhu bi dinarin la yu'di ilayk. Et d'autres, même si tu leur donnes un dinar, c'est pas un quintal d'or, un dinar, ils te le rendent pas. Ensuite, il a dit, illa ma dumta alayhi qa'iman. Illa ma dumta alayhi qa'iman. Sauf si tu es tout le temps en train d'insister pour qu'ils te rendent le dinar. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Qa'imen. إلا ما دمت عليه قائما. Donc قائما ici c'est pas debout, c'est insister. Et c'est la même chose dans le hadith. Donc quand il a dit debout, قائما يصلي, قائما c'est pas debout ici, c'est insister. Il insiste en train de faire, pour faire les doigts. Ensuite, là c'est lughatan. Maintenant dans la religion, la salat c'est أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. Comme ça a dit صاحب الكتاب هذا, inchallah ta'ala on va ajouter quelque chose pour corriger, il a dit أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير. Il a dit des, la salat yani religieusement c'est quoi? C'est أقوال, c'est des paroles, وأفعال des actes qui commencent par الله أكبر مفتتحة بالتكبير, car la salat commence par الله أكبر, comme dans le hadith sahih تحريمها التكبير وتحليلها السلام. الصلاة commence par الله أكبر, ça se termine par السلام. Ici il a dit c'est des paroles et des actes qui commencent par الله أكبر مختتمة بالتسليم, qui se termine par تسليم, par السلام عليكم, بشرائط مخصوصة, avec certaines conditions. Ça veut dire avec le wudu, avec on doit être en face de la prière, on ne doit pas parler, on ne doit pas rire, on ne doit pas beaucoup de choses. Mais comme m'a montré une fois Cheikh Bilousemin Alayrahmo, j'ai lu ça quelque part dans ses livres, Alhamdoulilah, je l'ai bien retenu, je ne l'ai pas oublié. D'ailleurs, quand j'ai vu ce livre-là, j'ai remarqué la faute. Il a dit que beaucoup font une faute lorsque ils donnent le sens de la salat, ils disent que c'est quelque chose qui commence, c'est des actes et des paroles qui commencent avec Allahu Akbar, qui se termine avec salam alaikum. Ibn Odim a montré que pour être plus juste, on doit dire ce sont des paroles et des actes qui commencent avec Allahu Akbar et qui finissent avec salam alaikum. Mais voilà ce qu'il faut ajouter, bi niyyati taqarrub ila Allah, avec l'intention de se rapprocher yani d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, parce que tu peux dire Allahu Akbar et faire la prière, tu termines, tu dis salam alaikum, mais tu l'as pas faite pour le visage d'Allah, tu l'as fait pour quelque chose, pour tu as un but, pour je ne sais pas quoi, c'est de l'hypocrisie. C'est... Moi je me rappelle que je connais certaines personnes deux noms, qui lorsque ça arrivait le vote pour devenir, pour quand les gens votent sur eux, ils commençaient la prière. Et après, s'ils réussissaient pas, c'est pas eux qui sortent dans la liste, parce qu'ils délaissent la prière. Ça existe, mais c'est peu, mais ça existe. Donc la vraie salat c'est commence par Allahu Akbar et qui termine par salam alaikum, avec des conditions, mais il faut qu'elle soit pour Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Maintenant on va parler un peu de fadl salat. Salat la fadl azim, la fadlun azim, yani c'est quelque chose de très 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 important. On va parler un peu de son importance, ensuite on va rentrer un peu dans les détails. Je parlerai un peu de son importance, je dirais. Ce qui montre son importance, c'est beaucoup de choses. La première des choses qui montre qu'elle est très importante, c'est que la salat la faisait non seulement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les prophètes ont fait la salat. C'est dire que tellement elle est importante. Elle n'a pas été obligée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les prophètes d'avant faisaient la salat. Seulement, elle n'était pas comme la nôtre. Yani Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Dhuhr 4, Maghrib 3, Dhuhr et Asr à voix basse, l'autre à voix haute. Elle n'était pas exactement comme la nôtre. Et aussi, question de wudu et taymoum, n'était pas à 100% comme dans notre salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit que Jibril alayhi salam est venu deux fois pour me montrer comment qu'on fait la salat. Le premier jour, il est venu au début de la salat. Le deuxième jour, il est venu à la fin de la salat. Ensuite, il lui a dit, le temps de la salat, c'est entre ces deux-là. Il a dit, Hada, ya Muhammad, al-waqt fi ma bayn al-waqtayn. La salat, c'est entre ces deux temps. وهذا وقت الأنبياء قبلك. Et ça, c'est aussi le temps des prophètes avant toi. Le temps des prophètes avant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les prophètes avant faisaient la salat. D'ailleurs, vous vous souvenez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, le Mi'raj, quand il est parti de la Mecque vers Palestine avant de monter, si Allah subhanahu wa ta'ala, l'Azouj lui a fait descendre des prophètes. Il lui a fait descendre certains prophètes, il a fait la salat avec eux. Donc, entre autres, Isa alayhi salam. Donc, les prophètes, tous faisaient la prière, bin l'Azouj. L'Azouj, quand il a parlé de Daoud, il a parlé de Daoud, il a dit, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ثُمَّ أَنَابَ خَرَّ رَاكِعًا. Et il s'est incliné, ça veut dire qu'il a fait la prière خَرَّ رَاكِعًا ثُمَّ أَنَابَ. Il a parlé de Suleyman عليه السلام, il a dit وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَّادِ. Vous connaissez l'histoire de Suleyman, en très bref, je vais l'expliquer. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوا عليا. Une fois, Suleyman عليه السلام a demandé à ses valets de lui exposer qu'est-ce qu'il avait comme chevaux, les plus beaux chevaux, يعني مشبحين, avec de l'or, etc. Il y avait, je ne sais pas, des centaines, des milliers. Il a commencé à les voir, يعني, à les vérifier, à les voir, jusqu'à ce que le soleil est descendu. Le soleil est descendu. C'est-à-dire que tellement yani, il a été occupé en train de les voir, en train de voir ses chevaux, hatta yani, la salat al-asr est passée. La salat al-asr est passée. An Qatada, Qatada radiallahu ta'ala anhu, An Qatada, inna salat allati fatat, inna salat allati fatat Nabi Allah Suleyman, salat al-asr, hadith al-hasan. Qatada dit, la prière que qui a passé ou là, qui est passé et que Suleyman n'a pas fait ce jour-là, en regardant ses chevaux, c'était quoi? C'était Salat al-Asr. C'est pour ça que après il s'est énervé, il a dit, tous ces chevaux, il faut que je m'en débarrasse. Une chose qui fait de sorte à ce que je fasse pas la prière à l'heure, cette chose, je la veux pas. Et l'Azouj a dit, en parlant de Shu'aib alayhi salam, en parlant de Shu'aib alayhi salam, yani, sa nation lui a dit, qalu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una ou en nef'ala fi amwalina manasha. Est-ce que c'est ta salat qui te dit de nous dire ceci et ceci et de ne pas faire cela et cela? Est-ce que c'est ta salat qui nous dit, qui te dit cela? Donc c'est la preuve que quoi? Qu'il faisait la salat. Et en parlant de Younes alayhi salam, l'Azawil a dit wa inna Younusa la min al mursalin id abaqa fil fulki al mashfun fa sahama fa kana min mudhadin faltaqamahu al hut wa huwa mulim. Il est rentré dans la bouche, là, comment ça s'appelle, du grand poisson. Certains ont dit la baleine. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'était pas quelqu'un qui faisait tasbih, il serait resté dans son ventre, c'est-à-dire il serait mort jusqu'au jour où Allah Azza wa Jalla le ressuscitera. Quand il a dit إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْ لَا, s'il n'était pas des مُسَبِّحِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire ici مُسَبِّحِينَ? عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين أي من المصلين. حديث حسن. Donc يونس عليه السلام même dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la prière. Et là عز وجل, en parlant de مريم, il a dit يا مريم يا مريم اقنوتي لربك واسجودي واركعي مع الركعين. C'est pas la peine d'expliquer, très bien compris. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi wasjudi, prosterne-toi, warka'i, et fais l'inclinaison ma'a raki'in, avec les gens qui s'inclinent. C'est pour ça que certains ont dit qu'elle allait même à la mosquée faire la prière. En parlant de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bima recommandé, awsani بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة لا prière. عز وجل demandé de faire la prière. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. En parlant de إسماعيل عليه السلام, il a dit واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. اسمه إسماعيل عليه السلام, l'Azouj a dit, il disait à sa famille qu'il a yamur ahlahu bis salat, de faire la prière. Il disait, il recommandé à sa famille de faire la prière et la zakat. Quand il a parlé de Zakaria alayhi salam, il a dit فنادته الملائكة. Les anges l'ont appelé وهو قائم يصلي في المحراب. Et ils l'ont trouvé en train de faire la prière dans l'endroit, le mihrab, l'endroit où on fait la prière. أن الله يبشرك بيحيى. En parlant de Ibrahim, bien sûr, Ibrahim وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ربنا إني سكنت في آية أخرى من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فوقوا ربنا ليقيموا الصلاة. Et vous connaissez le hadith sahih du tyran, c'est, il y avait un roi qui était un tyran. À chaque fois qu'une femme passait les frontières de son pays, il demandait aux soldats de la prendre pour qu'il fasse avec elle la zina. Alors quand Ibrahim alayhi salam est passé avec sa femme, avec Sarah, les soldats sont venus et ont pris Sarah de lui et l'ont emmené au tyran pour qu'il fasse l'iyadu billah la zina avec elle. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait quand les soldats lui ont pris sa femme? Il est rentré dans la salat. Il a dit Allahu Akbar, il a commencé à faire la prière. Et elle, quand elle est arrivée là-bas, l'autre a voulu faire la zina, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Laisse-moi une seconde faire la salat. Donc c'est dire que il faisait la salat à leur époque. Et là, quand il a parlé de Moussa, il a dit فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاعبدني وأقم الصلاة في الأفقية وأقم الصلاة لذكري. Ensuite, ce qui prouve que la salat est quelque chose de très important, c'est qu'il n'est permis à personne, à quiconque, d'approcher cette salat sans qu'il ne soit pur de tous les côtés. Naam, sans qu'il ne soit pur de tous les côtés. Premièrement, il faut qu'il soit pur du cœur. Il faut qu'il soit pur du cœur. C'est pour ça que le kafir, s'il faisait la salat, l'argent ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que le kafir est souillé pas dans ses vêtements, pas dans son corps, mais dans son cœur. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Mu'min la yanjus. Mu'min ne se souille pas, ne devient pas souillé. Et Allah a dit Innama al-kafiruna najas. Le kuffar, ce sont des souillés. Mais qu'est-ce qui est souillé en eux? C'est le cœur, leur cœur est souillé. Donc l'Azawajal, s'il fait le kafir de la prière, il ne lui accepte pas. Quoique, il est obligé de la faire. Il doit la faire. Ça veut dire qu'il doit rentrer en islam, ensuite la faire, bien sûr. Ça veut dire que Yom al-Qiyamah, il sera châtié, non seulement pour le kufr, mais pour ne pas avoir fait la salat, ni la zakat, et pour avoir bu l'alcool, pour avoir fait la zina. Pour tout cela, il sera châtié. Pourquoi? Parce qu'il devait rentrer en islam et pratiquer comme tous les autres. Comme tous les autres. Donc il faut la pureté du cœur. Ensuite, il faut la pureté du corps. La pureté du corps. C'est pour ça que on peut pas rentrer dans la salat si on fait pas l'oudou. Non, on peut pas rentrer dans la salat si on fait pas l'oudou. Donc comme Lazare quand il a parlé des kuffar, il a dit "Naman mushrikuna najis", ça veut dire c'est quoi? C'est la souillure du cœur. Maintenant, on parle de le corps, pas du cœur. On ne peut pas rentrer dans la salat si on ne fait pas le wudu. Et vous remarquez, le wudu, on doit le mettre dans notre bouche, dans notre nez, sur nos visages, les mains, les pieds, ou peut-être on a touché des choses. Donc on ne peut pas rentrer si on ne fait pas le wudu. Et ensuite, on doit faire la pureté de quoi? La pureté des habits. Allah Azza wa Jalla a dit وَتْرِيَبَكَ فَطَهَرْ. On ne peut pas faire la prière avec une najasa. On ne peut pas faire la prière avec une najasa dans l'habit. C'est pour ça que si jamais quelqu'un est en train de faire la prière, ensuite il se rappelle, il se dit par exemple je devais changer mes sous-vêtements, ils ont une souillure, je devais les changer, j'ai oublié. Ou bien il se dit j'ai une souillure par exemple sur mon habit au niveau de telle partie. Celui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir de la salat immédiatement, qu'il soit imam ou qu'il soit derrière l'imam, qu'il soit à la maison, que ce soit une femme. Il doit sortir de la salat, aller enlever la souillure qui se trouve, la frotter avec de l'eau, etc. Ou bien aller changer le vêtement et revenir et commencer la salat de nouveau. S'il trouve que les autres ont terminé la salat, bien sûr. Maintenant, quand c'est quelque chose qui s'enlève, quand c'est quelque chose qui s'enlève, il l'enlève en plein salat, il n'y a pas de mouchkila. En plein salat, si c'est quelque chose, c'est une veste qui a la souillure. La veste, elle s'enlève en plein salat. Tu mets tes mains comme ça, tu jettes la veste. Si c'est quelque chose qui, si on enlève, elle arrête la salat, on ne peut pas. Par exemple, le khimar. Le khimar contient de la souillure. Si on enlève le khimar, la salat est annulée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On sort de la salat, on change de khimar, bien on enlève la souillure et on revient. Donc, personne ne peut faire la salat avec la souillure. Quatrièmement, il faut aussi quoi? Il faut, et bien sûr, ça viendra, inshallah, toutes les choses, ces quatre choses viendront, inshallah. Il faut la purification de l'endroit. On ne peut pas faire la salat dans les toilettes. On peut pas faire la salat où il y a quoi? Où il y a une souillure. Mais si la souillure est un peu loin de nous, ça ne nous gêne pas. Supposons, je vous donne un exemple. Je vais faire la salat dans cette chambre, sur ce carton, il y a un morceau de carton. Je vais faire la prière celui, je suis au travail, quand je suis au travail, il y a un morceau de carton, je vais faire la prière sur ce carton. Mais ce carton contient une souillure, quelqu'un par exemple a fait ses besoins ou là, derrière, ou là a uriné, sur le carton, mais le carton, c'est-à-dire, est un peu grand. C'est derrière moi, pas devant moi où je vais m'incliner et je vais me prosterner. Ça me gêne pas. Pourquoi? L'essentiel, c'est de ne pas faire l'inclinaison et la prosternation sur la souillure. Si elle est à ma droite, à ma gauche, derrière moi, c'est séparé entre moi et elle, je peux faire la prière, il y a, inshallah ta'ala, aucun problème. Quant au dalil que quand on est dans la salat, si on trouve une souillure, on la jette et on continue, vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train de faire la salat, quand soudainement, il a pris ses souliers, il les a jetés. Alors les sahaba qui étaient derrière, radiyallahu ta'ala anhum, ont fait comme lui. Donc il a terminé, il a dit, Mahada, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit, on t'a vu jeter les souliers, on a fait. Il a dit, non, moi, Jibril alayhi salam est venu, il m'a dit, tu as de la souillure dans ton soulier, j'ai jeté le soulier. Ça veut dire, eux, tellement ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils veulent l'imiter même s'ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ont dit, il a jeté les souliers, nous on les jette. Et ils ont jeté leurs souliers en plein salat. Ensuite, ce qui montre aussi que la prière, elle a, comment on dit, elle a fadl kbir, عند Allah subhanahu wa ta'ala, elle a une grande importance chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le jour du jugement dernier, le jour du jugement dernier, lorsque les gens iront à tous les prophètes pour leur demander de venir faire l'intercession, personne n'acceptera, comme vous devez savoir. Ensuite, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va accepter dans le long grand hadith. Ensuite, il va, chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses qu'il va faire, c'est que il va faire la prosternation. Tellement c'est important, il va commencer par quoi? Il va commencer par faire la prosternation. Ensuite, il va faire beaucoup d'invocations. Ensuite, il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Et de venir, yani, pour faire le hisab aux gens. Ensuite, ce qui montre que cette salat a aussi beaucoup beaucoup d'importance, c'est que le jour du jugement dernier, il y a une prosternation. Naam, yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quiconque faisait la prière, c'est-à-dire ici, ce jour-là, il pourra faire cette prosternation, une seule prosternation, une seule. Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule. Quiconque la fera ce jour-là, ça veut dire qu'alhamdoulilah, il est voué, inshallah ta'ala, à rentrer au paradis. Peut-être qu'il va passer par l'enfer, mais inshallah ta'ala, il va aller au paradis. Mais celui qui va pas faire cette prosternation ce jour-là, Allah azzawajal lui mettra son dos comme une barre de fer. Il mettra dans son dos comme une barre de fer. Et il veut s'incliner, il tombera sur son dos. Il veut s'incliner, il tombera de derrière, il tombera sur son dos. Ce jour-là, ce sera très grave, celui qui ne fera pas cette prosternation. Et tellement la salat, c'est quelque chose d'important, que c'est la première chose que Allah Azza wa Jal questionnera. La première question, ça sera sur la salat. Il ne te dira ni est-ce que tu es allé au Hajj, ni est-ce que tu as fait l'aumône, ni est-ce que tu as fait le ramadan. Il commencera par la salat, si elle est bien, alhamdulillah, s'il lui manque quelque chose, on va voir la nafila. Et s'il n'y a pas la salat, c'est pas la fin de parler. S'il n'y a pas la salat, c'est pas la fin, yani, de parler à Allah subhanahu wa ta'ala sur d'autres choses. Et ce qui montre qu'elle est très importante, c'est que Allah Azza wa Jal l'a appelé dans le Coran, il l'a appelé iman, il l'a appelé croyance. Il a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal ne va pas annuler votre iman. Votre iman, c'est quoi ici? Votre salat. Pourquoi? Parce que certains gens, certains sahaba radiallahu ta'ala anhum, ne savaient pas que la qibla avait changé. La qibla, auparavant, on se dirigeait vers Palestine. Ensuite, on a commencé à se diriger vers la Mecque. Mais certains, qui étaient par exemple en Éthiopie, etc., ne savaient pas que la qibla a changé. Ils étaient toujours en train de faire la prière en se dirigeant vers Palestine. Ensuite, quand ils ont appris cela, certains se sont dit, donc, nos salats qu'on a faites, yani, elles sont parties comme ça dans le vent, elles ont été annulées, parce qu'on ne savait pas. Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset celui-là, pour dire que, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal ne perd pas ou n'annule pas vos salats. Et la salat ici, qu'est-ce qu'il a appelé? Iman, إِمَانَكُمْ. Pourquoi? Parce que la salat, c'est l'iman. Naam. La salat, c'est l'iman. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. S'il n'y a pas de salat, il y a le kofr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui montre aussi que la salat est très importante, ce qui montre aussi l'importance de la salat, inshallah ta'ala, j'ai cité beaucoup de choses, ma'alish, ce qui montre l'importance de la salat, c'est que lorsque les gens, le jour du jugement dernier, iront en enfer pour parler avec certains gens. Parce qu'en enfer, c'est comme un peu en prison. Il y a des visites. Il va voir, celui-là va voir son père en enfer, celui-là va voir son ami, celui-là va voir sa femme. Il y a un groupe qui sont allés voir certains gens en enfer. Ce sont des koufars, bien sûr. Ils leur ont dit, mais c'est la kakoum fi saqar. C'est les musulmans qui posent la question aux koufars. Mais c'est la kakoum fi saqar. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui ici dans la fournaise? Vous êtes en plein Jahannam. Qu'est-ce que vous faites? Quelle a été la réponse? Leur réponse, ils ont dit, لم نكو من المصلين. لم نكو من المصلين. Subhanallah al-Azim. ولم نكو نطعم المسكين. وكنا نخذ مع الخيرين. وكنا نكذب بيوم الدين. المهم, ils ont dit qu'ils étaient kuffar. Ils ne croyaient pas au jour de la résurrection, etc. Mais la première des choses qu'ils ont dit, on ne faisait pas la prière. Pourquoi? Ils pouvaient dire on était kuffar. Ils l'ont dit d'ailleurs dans le même verset. Ils ont dit on était kuffar. Mais pourquoi ils ont commencé pas, on faisait pas la prière? Ils ont commencé par ça. Parce qu'ils ont su là-bas que la prière, c'est la chose la plus importante. La plus importante. Et c'est une preuve aussi que même le kafir doit faire la prière. Car le kafir, c'est lui qui a parlé ici. Il a dit je faisais pas la prière. Et je vous ai dit une fois que le kafir doit faire exactement comme on fait nous. Il atteste Shadow Nayla, Shadow Muhammad Abdul Rasulou, il enlève la djanaba et il commence à faire tout ce que font les musulmans. Je vais terminer d'abord avec cela, avec deux choses. Ce qui montre aussi que la salat est très importante, c'est que même quand on meurt, on est dans la tombe on fait la prière. Ça, c'est vraiment rien, ce qui montre. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, hadith sahih, authentique. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mu'minun, les croyants, ahya'un, vivants, fi quburihim yusallun, sont la prière dans leur tombe. Al-mu'minun, les croyants, ahya'un, vivants, fi quburihim yusallun, ils font la prière dans leur tombe. Quand je dis font la prière dans leur tombe, c'est pas parce que c'est obligatoire. La prière, son obligation se termine ici. Mais le croyant, tellement il est content, tellement il sera content quand on lui montre son paradis et sa place qu'il attend, etc. Et tellement il n'en croit pas ses yeux, il commence, il fait la prière, il commence à faire les douas, les tesbih, il ne va pas s'arrêter. Donc, c'est tellement important que même dans la tombe, les croyants feront la prière. Ensuite, Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a vu quelqu'un qui a fait une longue prière. Hein, il a fait deux rak'at, mais très longue. Par exemple, il est resté une heure ou une heure et demie dans deux rak'at. Faqala, ayyukum ya'rifu hadha. Il a dit, quiconque de vous connaît celui-là. Il avait une personne qui ne connaissait pas, mais qui a fait une longue prière. Il a dit aux autres, quiconque, qui de vous connaît cette personne. Parce qu'Abdullah ibn Omar, comme vous savez, c'était l'un des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire des proches, yani, qui était tout le temps avec lui, que peut-être il n'y a pas personne qui connaît la sunna mieux que lui. Donc quand il a vu quelqu'un faire, cette personne faire comme ça, il a dit aux gens, qui connaît cette personne. Faqala rajulun ana. Quelqu'un lui a dit, moi je le connais. Faqala ibn Omar, ama inni law araftu. Parce que moi, si je le connaissais, il a dit, je ne connais pas cette personne, mais si je le connaissais, la amartuhu bi kathrat ruku' wa sujud. Je lui aurais dit, au lieu de rentrer dans la prière, tu restes comme ça, une heure ou là, fais beaucoup de prières, c'est-à-dire fais beaucoup de ruku' et de sujud. Fais 10 rak'a avec beaucoup de sujud et beaucoup de ruku', plutôt que deux seulement, comme ça, très longues. Que deux seulement. Ensuite, il a dit, pourquoi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna al-abda ida qama ila salat, lorsque la personne, le musulman, se lève pour faire la salat, utiya bi dhunubihi, tous ses péchés, Allah Azza wa Jalla fait venir tous ses péchés. Utiya bi dhunubihi kulliha, fa wudi'at ala atiqihi. Allah Azza wa Jalla lui met tous ses péchés sur ses épaules, sur son cou et ses épaules par derrière. Tous les péchés qu'il a. Il a dit, fa kullama raka'a aw sajada saqatat anhu. À chaque fois qu'il fait une inclinaison ou bien qu'il fait une prosternation, les péchés commencent à tomber par terre, c'est-à-dire à s'annuler. Je vous ai dit à le hadith une fois. Dès que tu commences à faire la prière, dès que tu dis Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla ramène tous tes péchés et les met sur ton épaule. N'oublie pas quand tu es en train de faire la prière de dire maintenant tous mes péchés sont sur mes épaules. À chaque fois que tu t'inclines, ils descendent, ils commencent à tomber par terre. D'où, il est très conseillé d'allonger un peu l'inclinaison. Pas que l'inclinaison soit de quelques secondes. Si on peut, par exemple, au moins une minute dans l'inclinaison. Pourquoi ? C'est dans notre bien. C'est nous qui faisons tomber les péchés. Si tu veux pas, tu veux pas. Tu veux pas faire tomber les péchés, fais-la vite. C'est la même chose pour la prosternation. Quand on est prosterné, en train de dire Sfarbil Ala, Sfarbil Ala, on est en train de faire les doigts. En même temps, alhamdoulillah, les zounoubs sont en train d'être annulés. Alors, regardez celui qui fait la différence entre celui qui fait la prière et celui qui ne la fait pas. Et la différence entre celui qui fait les prières nafila surérogatoires et celui qui ne fait pas. Regardez la différence entre les deux. Maintenant, je vais ajouter un ou deux hadiths parce que je vais rentrer dans d'autres choses. Il y a quelque chose ici qui m'a plu. Naam, un Abdullah ibn Mas'oud. أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الشيخ الألباني هذا في صحيح قال تحترقون بوبرولي النبي صلى الله عليه وسلم قال بوبرولي تحترقون c'est-à-dire que يعني vous devez ou là vous allez entrer en enfer quand vous avez des péchés, يعني vous avez des péchés, ces péchés ne s'annuleront que si on va en enfer. Ça, s'il a dit tahtariqun, yani vous allez être brûlé, vous allez être brûlé. Ensuite, il a dit fa idha sallaytum as-subh ghasalatha. Ensuite, quand vous vous levez le matin, vous faites la prière du matin, salat as-subh, alhamdulillah, vous lavez vos péchés, les péchés qui étaient avec vous la veille et qui, si vous étiez mort, ils seraient partis avec vous. Il a dit alhamdulillah, vous avez fait la salat as-subh, les péchés ont été lavés. Ensuite, il a dit فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون ensuite vous brûlez فإذا صليتم الظهر غسلتها ensuite quand on reste nous de salat subh jusqu'à salat al-dhuhr, c'est beaucoup, c'est 4 heures ou là c'est 5 heures ou là plus 7 heures. Pendant toutes ces heures là on fait pas de péché, on dit pas quelque chose que Allah n'aime pas, on voit pas quelque chose de haram, donc on se brûle, نحترق. Il a dit فإذا صليتم الظهر غسلتها, dès que tu fais la prière du dhuhr, alhamdulillah, tu laves les péchés que tu as accumulés pendant la demi-journée le matin. Ensuite, il a dit tahtariqun, vous brûlez. Fa idha sallaytum al-asr ghasalatha. Si vous faites la prière du asr, vous lavez vos péchés. Thumma tahtariqun, vous brûlez. فإذا صليتم المغرب غسلتها، يوفت له المغرب ولا فيه بيشي، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها. Ensuite vous brûlez vous brûlez vous faites des péchés. Si vous faites la prière de l'Aïcha vous avez lavé vos péchés. ثم تنامون، ensuite vous dormez. فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا، ensuite vous dormez on ne vous écrit rien aucun péché jusqu'à ce que vous leviez le matin. Alhamdulillah, هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. Quand on dort aucun péché ne s'écrit même si dans le rêve on fait le haram ou là on boit l'alcool ou là ça, Alhamdulillah ce n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce n'est pas le quand on dort, ce n'est pas nous qui nous commandons. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, si vous vous rappelez dans Sourate Al-Kahf, qu'est-ce qu'il a dit? وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَاسِطِ. Qu'est-ce qu'il a dit? وَنُقَلِّبُهُمْ, et on les fait tourner, ذَاتَ الْيَمِينِ, à droite et à gauche, وَذَاتَ الشِّمَالِ. Qu'est-ce qu'il a dit? On les fait tourner. Il n'a pas dit il se tournait à droite et à gauche. Il a dit on les fait tourner. Pourquoi? Parce que pour dire que quand quelqu'un dort, c'est moi qui le fais tourner, c'est Allah qui te fait tourner, c'est pas toi qui peux tourner tout en dormant parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ensuite il y a un autre hadith, c'est le dernier hadith je vais dire en ce qui concerne Fadl al-Salat, le dernier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a dit kana rajulan min bali min quza'a. Il y avait deux hommes d'un certain endroit, aslama, ils sont convertis, aslama ma'a rasoul sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'istashhada ahaduhuma, l'un des deux est mort. Je crois que dans un autre hadith il a dit même c'était des frères, kana rajul, n'am, voilà j'ai le hadith devant moi, kana rajulan akhawan, n'am, ce sont des frères, l'un des deux frères est mort shahid. وأخر الآخر سنة، et l'autre est resté encore une année après lui. L'un est mort shahid et l'autre a vécu une année après son frère et n'est pas mort shahid. فقال طلحة بن عبيد الله، طلحة le compagnon رضي الله تعالى عنه a dit فرأيت المؤخر، j'ai vu le deuxième frère qui n'est pas mort shahid, qui a vécu une année après son frère. Il a dit je l'ai vu dans le songe. أدخل الجنة قبل الشهيد. J'ai vu que Allah Azza wa Jal l'a fait rentrer au paradis avant le shahid. C'est un peu drôle. Vous connaissez le ajr et le fadl du shahid. Celui-là, ce n'est pas un shahid. Comment se fait-il? Il a dit j'ai vu dans le songe que Allah Azza wa Jal a fait rentrer cette personne, yani avant le shahid, au paradis. فتعجبتُ لذلك. Ça m'a étonné. فتعجبتُ. فأصبحت. Le lendemain, j'ai dit فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. J'ai dit que j'ai vu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit alaysa qad sama ba'dahu ramadan. Il a dit je vais t'expliquer. Son deuxième frère, celui-là qui a vécu une année après son frère, n'a-t-il pas jeûné un ramadan yani plus que son frère? Wa salla 6000 raka, et il a prié, il a fait 6000 raka, parce que dans une année si tu comptes tu trouves 6000 raka, il a fait 6000 raka, wakada wakada min raka, et tant et tant de raka, wasalat sana, et une année de prière. Et il voulait lui dire ne t'étonne pas, quand quelqu'un, l'azur lui allonge dans sa vie, et tout en lui allongeant, yani cette personne est pieuse, elle fait ramadan plus que celui qui est mort. Il fait la salat plus celui qui est mort. Des fois, tu peux être meilleur que le shahid, comme dans ce hadith. Meilleur que le shahid. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que, en général, il n'est pas conseillé, ou ce n'est pas dans la sunna de faire les du'as, de dire par exemple à quelqu'un Atalallahu umurak, que Allah subhanahu wa ta'ala allonge ta vie. Ça, c'est pas dans la sunna. Mais si tu veux faire un du'a pareil, tu lui dis quoi? Atalallahu umuraka fi ta'atillah. Que Allah Azza wa Jal allonge ta vie dans sa religion ou là dans son obéissance, parce que Allah Azza wa Jal peut allonger à quelqu'un sa vie et il est tout le temps, il a fini yani, une vie dans la drogue et dans les bars, ou la yadu billah. Et toi tu fais, si tu veux que Allah Azza wa Jal allonge ta vie, demande-lui qu'il te l'allonge dans son obéissance, pas comme ça en général. Ya Allah, allonge ma vie. Allonge ma vie dans tes ta'atiks. Tes ta'atiks. Pourquoi? Pour que tu jeûnes beaucoup, pour que tu fasses beaucoup de salat, pour que tu ailles beaucoup au hajj, tu ailles beaucoup à la umrah, pour que tu donnes beaucoup d'argent aux pauvres. C'est pour cela que, yani, voilà le vrai fadl, le vrai fadl. Maintenant, cette salat, comment qu'elle a été, comment que l'Azza wa Jalla a obligé cette salat? Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la maison de sa cousine Hani. Quand le plafond s'est ouvert, Jibril alayhi salam, dans un autre hadith, qu'il y avait un autre ange avec lui et qu'ils l'ont pris jusqu'à où? Jusqu'à la Palestine. Il a fait la prière là-bas. Il était imam. Il a fait la prière. Et les autres, les NBA, il y avait même des anges qui étaient derrière, ils ont fait la prière derrière lui, il les a guidés, ensuite il est monté. Et vous savez tous que de la Mecque à Palestine, ils sont allés sur quelque chose qui s'appelle Bourak, un animal qui s'appelle Bourak. Comment elle a été rendue obligatoire? Non, je parle de la salat maintenant, comment elle a été rendue obligatoire? De la Mecque à Palestine, ils sont montés sur un bourak. Un bourak, c'est un animal, les ulémas ont dit, plus grand que l'âne, moins que la mule. Yani, akbar min al-himar, aqal min al-baghl. Quelque chose comme ça. Et cet animal, il avait quelque chose de spécial. C'était quoi? C'était cet animal. Quand il regarde avec ses yeux, là où arrive sa vue, là où arrive sa vue, il met ses pieds ou là ses pattes. Là où arrive sa vue, il met ses pieds ou là ses pattes ou là ses jambes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, vous m'avez compris. Moi, quand je veux marcher, ses pattes. Moi, quand je marche, je mets mes pattes. Pardon, je mets mes pattes. Là, je ne suis pas un bourrac. Je mets mes pieds à chaque fois 40 cm ou là 50. Mais mes jambes, mais lui, où il regarde? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand je regarde dans la rue, je regarde, par exemple, il n'y a ni immeuble ni rien. Combien je peux regarder? Je peux regarder peut-être à 20 km à l'horizon. Donc, le bourrac, quand il regarde à 20 km devant lui ou à 100 km, puisqu'il n'y a rien devant lui, c'est là-bas qu'il met ses pieds. C'est là-bas qu'il met ses jambes, pardon. Il les met à 100 km loin, ou à 200 ou à 2000. Juste où s'arrête sa vue et son regard. Il voit comme ça, où sa vue s'arrête, il va mettre ses jambes. Yani, c'est tellement quoi? Yani, tellement, yani, il va vite. Il veut dire, il va vite. Ensuite, quand il a guidé les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et certains anges, il est monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez l'histoire qui est très connue. Allah azza wa jal, Allah azza wa jal lui a dit que vous devez faire 50 prières. Quand il est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Moussa alayhi wa sallam dans le sixième ciel. Dans le sixième ciel, il y avait Moussa alayhi salam. Et dans le septième, il y avait Ibrahim alayhi salam. Il lui a dit, que t'as dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il m'a dit de dire à ta nation de faire 50 prières. Il lui a dit, écoute, ils ne peuvent pas. J'ai l'expérience avec Ben Israël. Donc c'est une preuve qu'il aura demandé Moussa de faire la prière. Donc il a dit, c'est beaucoup, un mois. Il est monté deux ou trois fois. Ensuite, la dernière fois que lui a dit Allah Azza wa Jalla, lui a dit, c'était 50. La dernière fois, la troisième fois, je t'ai dit 5. Là, yubaddalu al-qawlu ladayya. Moi, quand je dis une chose, je ne change pas. Je t'ai dit 50, maintenant je t'ai dit 5. Mais chaque salat, c'est avec 10 salats. Ils font 5 et ils ont 50. Nous, quand on fait 5 prières par jour, l'Azul nous écrit 50 salats, c'est-à-dire chaque prière comptée, c'est 10 prières. Pourquoi? Parce que l'Azul ne change pas. Quand il a dit une chose, c'est une chose. Il a dit 50, maintenant il a voulu faire une faveur pour le Prophète, il a dit 5, et ça reste 50 chez Allah. Yani, nous, quand on fait 5, c'est comme si on avait fait 50. El Mouhim, pourquoi maintenant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envie de rendre quelque chose obligatoire, n'importe quoi, le siyam, le hajj, n'importe quelle chose, le hijab, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jibril alayhi salam et il lui dit, dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux croyants ceci et cela. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن et des choses comme ça. Mais pourquoi ici, pour la salat, il lui a dit, Jibril alayhi salam, va me l'emmener ici, au-dessus des cieux, pour lui parler, subhanahu wa ta'ala, directement, sans le voir, derrière un voile, mais il l'entendait. Quand maintenant moi je suis en train de vous parler, vous m'entendez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Allah subhanahu wa ta'ala lui parler et lui dire, voilà, il faut faire 50 salat. Les ulama ont dit, tellement c'est important la salat, tellement c'est important et c'est grave et ça a beaucoup d'importance hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a voulu faire venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne chez lui pour la lui dire comme ça directement, pour lui dire la chose comme ça directement. C'est comme un peu, pour vous donner seulement un exemple, c'est un peu quand par exemple le président de la République, s'il a quelque chose yani, normal, quelque chose de important mais pas très important, et il l'envoie à travers les ministres, c'est les ministres qui donnent l'ordre aux ministres, les ministres donnent l'ordre aux préfets, les préfets aux maires, ensuite c'est comme ça que marche l'ordre. Mais si le président de la République a quelque chose de très très important et très grave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux ministres de venir spécialement dans son bureau pour lui parler. Pourquoi? Parce que la chose est très grave, de lui parler comme ça directement. Il lui dit voilà, je vais faire la guerre, ou là on va faire couvre-feu, ou là, c'est quelque chose de très important. C'est pas il va envoyer des lettres ou là par téléphone, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallam en personne monte chez lui pour lui parler derrière un voile et lui dire il faut que vous fassiez la prière. C'est quelque chose de très très important. Maintenant, en ce qui concerne celui qui fait pas la prière, yani, il y a tellement de, les ulama ont tellement parlé de celui qui ne fait pas la prière que je voudrais seulement résumer. Je voudrais seulement résumer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais résumer ici. Je dirais, non. Il dit ici, le hadith alladhi fi sunan. Parce qu'il y a un hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ahd alladhi baynana wa baynahum salat, man taraka faqad kafara. Il a dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Eux, c'est les kuffar. Men tarakaha, quiconque ne fait pas la salat, faqad kafar. Il est devenu kafir. Donc, ça, c'est un hadith sahih, très connu, etc. Mais, il n'y a pas seulement ce hadith. Il y a aussi d'autres hadiths. Non, il n'y a pas seulement ce hadith, mais il y a aussi d'autres hadiths. Et vous savez que Al-Sunnah al-Jama'a ne marche pas avec un seul hadith. Et il ne frappe pas les hadiths l'un avec l'autre. Mais il groupe tous les hadiths pour sortir de quoi? D'un résultat. Moi, quand je veux parler sur quelque chose, je ne vais pas amener un hadith qui a parlé de cette chose et je donne la fatwa. Je dis classe. Le prophète Hassan a dit ceci, cela, voilà le hadith. Il faut grouper tous les hadiths qui parlent de cette chose. Si je veux parler du taïmoum, je ne vais pas chercher un hadith du taïmoum et je vais dire voilà le taïmoum. Je vais chercher tous les hadiths qui ont parlé du taïmoum et voir. Est-ce que apparemment ils se contredisent? Est-ce que celui-là complète celui-là ou bien هذا يخصص ou bien هذا يعني يقيد وهكذا. Donc ici on va citer d'autres hadiths maintenant que des gens ne connaissent pas. Il y a un hadith sahih authentifié par Sheikh Al-Albani et c'est un hadith kharajahu Ahmed. Ça se trouve dans Abu Daoud, Sahih Abi Daoud, Al-Mishkat aussi Sahih Targhib ou Tarhib, où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit خمس صلوات إلى خمس صلات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة خمس صلات الله عز وجل زايد فيك يعني sur العباد sur ces créatures في اليوم والليلة pendant le jour et la nuit. من حافظ عليهن quiconque يحافظ يعني donnez-moi si vous savez comment on dit يحافظ en français, ça veut dire quiconque يعني fait ses prières. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith, il les fait à l'heure, il les fait avec le wudu, il les fait avec les khushu'a. Il apprend. Yuhafid. Donc, quiconque, yani, ses prières, ses saintes prières, il fait de sorte à ce qu'il les fasse en leur temps, avec le wudu, avec une vraie prosterne, ils observent, quiconque les observe, naam, ils observent, en leur heure, avec leur wudu, avec leur khushu, etc., il a dit, كان له عهد, كان له عهد, كان له عهد, il a un pacte, كان له عهد, عند الله, أن يدخله الجنة. Il a un acte avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va le rentrer au paradis. Ensuite, il a dit, وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ, et quiconque ne les préserve pas, ou la, ne les fait pas yani, à leur heure, etc., لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدَ عِنْدَ اللَّهِ, il n'a pas d'acte chez Allah subhanahu wa ta'ala ou de pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ, s'il veut, il le châtie, وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ, et s'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il lui pardonne. Maintenant, ce hadith, il dit ici, Cheikh, il dit, fal muhafid alayha, donc celui qui a yani observé ses salats, c'est celui qui fait ses salats à l'heure. Il a dit, c'est celui qui fait ses salats à l'heure. Parce que je vous ai dit déjà une fois que yani, celui qui préserve ses salats, yani, celui qui les fait à l'heure, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Car j'ai dit une fois que ça ne servait à rien de faire la salat si ce n'est pas en son heure. C'est pour ça que Cheikh Ibn Hazm et Cheikh Ibn Uthaymin alayhim rahmatullah, Cheikh Al-Albani, Al-Shawkani, rahimahullah jami'an, tous disent, si tu ne fais pas la prière à l'heure, tu la laisses jusqu'à son heure, jusqu'à son moment sort, c'est pas la peine de la faire. Naam, si tu laisses ta prière, maintenant tu entends le adhan du Maghreb, et la salat du Maghreb se termine quand on entend, se termine quand l'horizon n'est plus rouge, c'est devenu noir. Quand tu vois l'horizon, c'est rouge, ça veut dire qu'on est toujours au Maghreb. Quand tu vois l'horizon, c'est noir, classe, il y a même peut-être quelques étoiles qui vont commencer, classe, ça veut dire c'est sorti l'heure du Maghreb. Maintenant, si tu ne veux pas faire la prière jusqu'à ce que ça devienne noir, ça veut dire quoi? Tous ces ulama disent, c'est pas la peine, surtout s'il y a l'appel de l'Aïcha maintenant, le Mu'adhan, c'est pas la peine yani, de faire sa prière. Pourquoi? Parce qu'on l'a laissé amden, on l'a laissé sans excuse, sans raison. Donc c'est pas la peine que quelqu'un laisse la prière sans raison, ce qu'il va dire, je vais la faire maintenant. Pourquoi? Parce que inna salat kanta al-mu'minina kitab al-mu'quta. Inna salat kanta al-mu'minina kitab al-mu'quta. Maintenant, si on a des raisons, Allah Azza wa Jal, yani, si on a, de toute façon, dans la salat, il n'y a pas de raison, sauf si on est évanoui. Hein, on est évanoui, ou là on dort, on ne s'est pas réveillé, ou là on a oublié. Ou bien on s'est trompé, on a cru qu'on a déjà fait la salat. Mais rester comme ça et dire j'ai une raison, je n'ai pas. Pourquoi? C'est quoi la raison? Tu es malade. Ne fais pas les ablutions, c'est avec le taïmoum. Tu ne peux pas te lever. C'est sans ablution, sans taïmoum, tu ne peux pas. Demande à quelqu'un de te faire le taïmoum. Lui, il prend un caillou ou là de la terre, il fait dans tes mains et sur ton visage. Toi, tu ne peux pas te lever. Tu ne connais pas où est la Qibla. C'est dans n'importe quelle direction. Tu n'as pas d'habits, c'est nu. Tu as des habits qui ont la najasa, c'est avec les habits qui ont la najasa. Tu ne peux pas t'incliner et te lever, c'est seulement avec ta tête. Tu bouges ta tête en haut, en bas, et tu dis salam alaykoum. De toute façon, personne n'a une excuse pour la salat. Personne n'a une excuse pour la salat. Ensuite, il a dit, Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, a parlé beaucoup de celui qui ne fait pas la salat, il est kafir, il n'est pas kafir, etc. Il l'a résumé, yani, il a divisé en quatre points essentiels. Il a dit, awalan, al-mumtani' minha hatta yuqtal. Al-mumtani' minha hatta yuqtal. ومتى امتنع الرجل من صلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا لوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين. نعم صافي كون كيلكان في بالا بريير اون اسلام كان في بالا بريير يعني كيس كون في يعني اون دي او غوفرنور بون سي با لو غوفرنور لو بريزون دو لا ريبوبليك باغ اكزومبل او جوج ولا يعني مسؤول ريسبونسابل يا سكون ابل الحسبه يا دي ريسبونسابل سبيسيالمون كي سون ريسبونسابل دو لا صلاه سي تو. Quand c'est l'heure de la salat, il marche dans la rue et il ferme les boutiques aux gens, et celui qui laisse la boutique ouverte par exemple, on lui ferme 3 mois, ou là on le met en prison, ou là pourquoi? Parce que c'est interdit de vendre pendant l'heure de la salat. Donc si quelqu'un par exemple de ceux-là on lui dit, voilà, j'ai mon voisin ou le X qui ne fait pas la salate, ou là, mon fils, ou là, mon mari, ou là, il ne fait pas la salate, il ne veut pas la faire. Qu'est-ce qu'on lui fait en islam? On lui dit, il faut que tu la fasses, on te donne 3 jours. Si le 3e jour, tu commences pas la salate, on doit couper ta tête. On doit couper la tête. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, si on dit à une personne, écoute, dans 3 jours, si tu ne vas pas faire la prière, on va trancher ta tête. Il a dit, ensuite il ne la fait pas. Ensuite, viennent les soldats pour le prendre. Ils le mettent dans la voiture ou là dans le camion. Ils l'emmènent à l'endroit où on va lui couper la tête. Ensuite, il voit, yani, l'homme qui va lui couper la tête, qui prend le sabre, il prend l'épée, il la lève comme ça vers le haut, il lui dit, yani, pose ta nuque, je vais te trancher ta tête, tu ne veux pas faire la prière. Il a dit, et malgré cela, il est patient et il préfère qu'on lui coupe la tête et qu'il ne fasse pas la prière. Celui-là a dit, Cheikh l'Islam, c'est un kafir d'ittifaq muslimin. S'il y a un musulman qui dit celui-là c'est pas un kafir, ce musulman devient kafir. Non. Parce que est-il possible que quelqu'un préfère la mort? Il dit je meurs et je fais pas la prière. Jamais. Maintenant les gens font pas la prière parce qu'ils savent qu'il y a rien. Il y a rien, il y a ni prison ni mort. C'est pour ça que. Mais maintenant si quelqu'un lui dit regarde, comme a dit Cheikh Choukani, le sabre, hein, on prend l'épée comme ça qui brille. Ça lui, dans ses yeux, ça brille dans ses yeux, l'épée, et il sait que dans une seconde, sa tête va trancher. Il dit non, je ne fais pas la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cœur, il ne croit pas en la prière, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. S'il aurait cru que la prière était obligatoire, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il va le rencontrer dans deux secondes ou là une minute, sans salat, il l'aurait fait. Donc, le premier cas, et celui qu'on prend pour lui trancher la tête, il dit je ne fais pas la prière. Celui-là, il est kafir, bittifaq muslimin. Tous les musulmans, les savants et les ignorants, des musulmans disent qu'il est kafir. Maintenant, le deuxième cas, al-musir al-tark. Al-musir al-tark. Faman kana musirran al-tarkiha, hatta yamut, la yisjudu lillahi sajda. Fahada la yakun musliman muqiran biwujubiha. Yani, annahu yara rahimahullah. Cheikh Ibn Taymiyyah voit un deuxième cas, il a dit la même chose, celui qui depuis sa naissance jusqu'à sa mort n'a jamais fait une prosternation, celui-là il a dit même si on lui coupe pas sa tête ou là on ne lui fait pas peur ou là, il a dit il est kafir. Il a dit comment toute sa vie il n'a pas fait une prosternation, une seule. Certains gens font la salat un mois ils s'arrêtent, celui-là il fait pendant le ramadan il s'arrête, celui-là il fait une année il s'arrête, celui-là une semaine il s'arrête. Ça veut dire que quand il a fait, il y avait la foi. Ensuite la foi a affaibli, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui dans sa vie n'a jamais fait la prosternation, une seule prosternation, et même quand tu lui parles de salat, ça lui plaît pas peut-être, et même il dit qu'est-ce que c'est cette salat, c'est masrher, c'est kada, c'est... Yani, celui-là il a dit c'est kafir. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit ce deuxième genre lui aussi est kafir. Le troisième genre c'est qui? Elle a dit la yuhafid alayha. Il a dit, la yuhafid alayha. Le troisième jour, c'est quelqu'un qui fait la prière, mais qui n'observe pas et ne la préserve pas. Comme je disais. Pendant le ramadan, il fait, ensuite il ne fait pas jusqu'au nouveau ramadan. Ou là, il fait un mois, ensuite il ne fait pas 4 mois. Ensuite, alhamdoulilah, il entend un dors, il commence à faire. Ensuite, 10 jours, il ne fait pas. Ensuite, celui-là, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, celui-là, il rentre dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Ça veut dire, le hadith où il est dit, s'il préserve sa salat, il l'a fait à l'heure avec les khushu, etc. Il a un pacte avec Allah. Et s'il ne fait pas, donc c'est quoi? Il est sous une mashi'at Allah. Si Allah Azza wa Jal, celui-là, il veut le châtier, s'il veut lui pardonner, il pardonne. Celui-là, personne n'a le droit de dire celui-là va aller en enfer. Pourquoi? Si Allah Azza wa Jal veut lui pardonner, il lui pardonne. Là, je veux le châtier. Pourquoi? Il faisait, il s'arrêtait. Il est taht une mashi'a. C'est toujours Cheikh Islam qui dit cela. Et le quatrième genre, c'est qui? C'est le mu'minoun, le muhafidoun ala salat. Le mu'minoun, c'est des musulmans, les croyants, qui faisaient la prière à l'heure et tous les jours. Et mashallah, il a dit, ceux-là, ils ont un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fera rentrer au paradis. Naam. Allah azzawajal, quand il dit une chose, c'est une chose. Il a dit, ceux-là, ils ont un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala va les rentrer au paradis. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, alhamdulillah, alhamdulillah quoi? Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait aimer la salat, de sorte à ce que, alhamdulillah, on l'a fait, yani, au maximum, on essaye de la faire, yani, en son heure. On essaye de la faire en son heure. Car ce n'est pas une chose facile, yani, si on n'a pas la saveur dans le cœur, on n'a pas le halawa, etc. La salat, elle est difficile. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te fait descendre l'iman dans ton cœur, ou le halawa, le plaisir de l'iman, etc. Comme ça, la salat va te paraître qu'elle n'est pas difficile et qu'elle est simple. Comme a dit Allah dans le Coran, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَإِنْ il parle de la salat. Il a dit, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Il a dit, la salat, c'est quelque chose de lourd, sauf pour ceux qui ont le khushu' dans le cœur. Naam. Celui qui a l'amour d'Allah dans son cœur, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, la certitude qu'il va rencontrer Allah, yani, il fait cette chose, yani, avec halawa, avec un plaisir dans son cœur, la salat va lui paraître quelque chose de très simple et facile. Bien au contraire, le prophète alayhi wa sallam disait, Ya Bilal, arihna biha. Ya Bilal, je suis fatigué, faisons la prière pour que je me sente bien. Dans la prière, il se sentait bien, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, wa ju'ilat qurratu ayni fi salat. La meilleure, yani, des choses pour mes yeux, la meilleure des choses que je puisse voir dans cette vie, c'est quand je suis dans la salat. Tellement il aimait sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez remarqué, quand vous avez halawat iman, quand vous sentez l'iman dans le cœur, halawa, masha'Allah, vous trouvez la salat, yani, masha'Allah. Quand il n'y a pas halawa, etc., on se lève, yani, avec une lourdeur. Avec une lourdeur. Comme a dit la Azza wa Jalla, pardon, des hypocrites. Ils se lèvent pour la salat avec fainéantisme. L'hypocrite, quand il se lève pour la salat, il se lève, yani, avec fainéantisme. Pourquoi? Il se dit, moi je ne crois pas en cette salat, ni en Allah, ni en rien, mais je suis obligé de la faire devant les gens pour pas qu'ils disent que celui-là c'est un mécréant. Alors il se lève et commence à la faire. Imaginez comment peut-on faire une salat pareille. Yani, dans le cœur, yani, tu n'as pas envie de la faire. Mais quand il y a le halawa dans le corps, et on se lève la nuit, on fait la prière, mashallah, on sent la chair de poule, on sent, mashallah. Donc je disais, nous qu'est-ce qu'on dit? On dit, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala, hadana li salat. Et il nous a fait, il a fait de sorte que on aime cette salat, alhamdulillah. Ensuite, Cheikh, il a dit ici, naam. Il a dit, surtout Cheikh Al-Albani, rahmatullah, vous savez que Cheikh Al-Albani, c'était le genre qui voyait que celui qui ne fait pas la salat, et il dit que la salat est obligatoire, mais Annie, je suis un peu fainéant, Inch'Allah je vais faire, Inch'Allah demain, Inch'Allah, et puis il n'a pas fait, il est mort. Cheikh Al-Albani a dit, celui-là c'est pas un kafir. Il a dit, le kafir c'est celui qui, il dit, je reconnais pas cette salat, je la reconnais pas. Cheikh Al-Albani a dit, s'il reconnaît la salat, il dit, naam, il y a la salat, je sais qu'elle est obligatoire, Inch'Allah, yani, juste je me marie, je commence. Juste je vais au hajj, je commence. Juste je règle mes problèmes, je commence. Juste kada, je commence. Il a dit, celui-là, il n'est pas un kafir. D'ailleurs, ceux qui disent, parce que certains juhal, certains ignorants, ils disent, si tu dis comme ça, tu es devenu un murji, un murji'a, c'est une secte égarée. C'est pour ça que certains, qabbahamullah, sont allés jusqu'à dire que Cheikh Al-Albani, c'est un murji. Il a dit, c'est un murji. Parce qu'il a dit la salat, yani, il peut ne pas la faire, il rentre au paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils ont oublié une chose très importante. Laquelle? Quand tu dis Cheikh Al-Albani est murji, ou bien tu dis celui qui dit comme ça, celui qui ne fait pas la salat peut aller au paradis, il est murji. Tu as oublié quoi? Tu as oublié que tu as dit que les quatre grands imams de l'islam, Abu Hanifa, Ahmed, Imam Malik, ou Shafi'i, sont des murji. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que les quatre ont dit, celui qui ne fait pas la prière, s'il meurt, tout en reconnaissant que la prière est obligatoire, ils ont dit, il est musulman. Il est musulman. Quand je dis il est musulman, ça ne veut pas dire il va aller directement au paradis. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla va le châtier à cause de la prière qu'il n'a pas faite, etc. là, s'il veut lui pardonner, il lui pardonne. La yus'al amma yaf'al wa yus'alun. Donc, quand tu dis que quiconque parle de cela de la salat, c'est un mourdi, tu oublies que tu as dit des quatre grands imams que ce sont des mourdis. Même l'imam Ahmed, dans une riwaya, dans le Mourni, il est dit que, même les Hanbalites, l'imam Ahmed a dit que, yani comme les autres a'imma, comme les trois autres a'imma. Ensuite, Sheikh al-Albani, rahmatullah, s'est basé sur deux dalils, surtout l'un. L'un, c'est dans Sahih Muslim. Alors celui-là, c'est vraiment difficile de rendre son hadith. Le hadith de Sheikh al-Albani, sur lequel s'est basé, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, les gens, le jour du jugement dernier, ils vont pas aller à Allah. Ils vont lui dire, Ya Allah, tu nous as fait rentrer au Jannah, Alhamdulillah, kada, mais on a des amis, on a des frères et sœurs qui sont au Jahannam. Ils sont toujours en Jahannam. On voudrait qu'ils sortent. Allah Azza wa Jalla leur enverra. Il va leur dire, donc allez et faites sortir celui qui fait la prière. Faites sortir celui qui fait la prière. Ça veut dire, il y a des gens qui font la prière et vont aller en enfer. Il faisait la zina, il faisait consommer la drogue, etc. En médisance. Il a dit, allez faire sortir ceux-là. Et les gens, ils ont dit, comment on les connaît? Ils ont dit, le feu ne mange pas les endroits des ablutions. Vous les connaîtrez avec ce signe. Ils sont allés, ils les ont fait sortir. Ensuite, ils ont dit, Allah, il reste d'autres gens, etc., qu'on voudrait faire sortir, etc. Alors, Allah Azouli, qu'est-ce qu'il leur dira? Il a dit, allez-y, فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. Allez-y, si vous trouvez quelqu'un qui a un atome de bien, il a fait un atome de bien, faites-le sortir. Ils sont partis, ils ont fait sortir beaucoup de gens. Beaucoup de gens, parce qu'ils faisaient au moins un atome de khair. Ensuite, ils ont dit, ثم يقولون ربنا لم نذر في خير. Ils ont dit, Ya Allah, maintenant, il n'y a personne qui a fait du bien et qui est en enfer. Allez, tous ceux qui ont fait du bien, on les a fait sortir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà le hadith de l'Albani. Allah Azza wa Jal dira, Shafa'ati al-Mala'ika. Il a dit, Allah Azza wa Jal dira, les anges ont fait l'intercession. Parce que les anges sont aussi partis, ils ont fait sortir beaucoup de gens. Les anges ont fait l'intercession. Wa Shafa'a al-Nabiyoun, les prophètes ont fait l'intercession. Wa Shafa'a al-Mu'minoun, les croyants ont fait l'intercession. وَلَمْ يَبْقَى إِلَّا أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ. Maintenant il reste أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ, c'est-à-dire moi. Allah Azza wa Jalla parle de lui. Moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit le hadith? Il a dit فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ. Il prend comme ça, yani comme nous on prend avec notre main, on dit j'ai pris قَبْضَة بِالْيَدْ. Il prend une poignée, قَالَ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا. Il fait sortir un groupe, de Jahannam. Il a dit لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Qui n'ont jamais fait de bien dans leur vie. Cheikh Al-Albani a dit, donc jamais fait de bien, ça veut dire qu'ils n'ont fait même pas la salat. La preuve, ceux qui ont fait la salat et ont fait d'autres choses avec elle, ils sont sortis avant cela. Maintenant, sont sortis ceux qui n'ont fait jamais de bien dans leur vie. Il a dit, ils sortent comme le charbon noir. Noir comme du charbon. Ils vont passer par une fontaine, ils vont se laver là-bas. Allah Azza wa Jal va les faire revivre de nouveau. Ensuite, Cheikh Al-Albani s'est basé aussi sur un autre hadith qui m'a beaucoup plu aussi. C'est lorsque je vais chercher le hadith où est-ce qu'il est. Naam. An Abdullah ibn Mas'ud. Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. C'est un hadith kharajahu at-Tahawiru, kharajahu shaykhuna fi sahiha. Hadith qui se trouve dans le Sila Sahiha de Sheikh Al-Albani rahimahullah. Il a dit Umira bi abdin min ibadillah an yudraba fi qabrih 100 jalda. Il y a quelqu'un qui est mort, quand il était dans sa tombe, Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges qu'on frappe cette personne, qu'on fouette cette personne dans sa tombe sans coup de fouet. Sauf même dans la tombe, il y a le fait d'être fouetté, le fait. Mille choses, Allah l'afiya, mille et une choses dans la tombe. Donc Allah Azza wa Jal a demandé aux anges qu'ils fouettent quelqu'un dans une tombe. Dans sa tombe, on doit le fouetter. قال, le hadith a dit, فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلِ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ يَسْأَلْ وَيَدْعُ حَتَّى صَارَ الْجِلْدَ وَحِيدًا. Donc l'homme Hada, dans sa tombe, il a entendu qu'il allait le fouetter sans coup de fouet. Il a commencé à faire des doigts. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, A'inni, Ya Allah, Arhamni, Ya Allah, Smahli, Ya Ya Susi, Ya Sula. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc fouettez-le une fois, un seul coup au lieu de 100. Un seul coup au lieu de 100. Il a dit, فَجُلِدَ جُلْدَةً وَحِدًا. On l'a fouetté un seul coup. فَمْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا. Un seul coup de fouet, et toute sa tombe et s'est allumée en feu. Un seul coup de fouet, et toute sa tombe est devenue feu. Tout, yani un seul coup, elle a décidé de l'entraper sans. Un seul coup de fouet, il a dit, et sa tombe est devenue tout feu, tout feu. فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ. Quand le feu s'est attisé, après une heure, ou la 10 heures, ou la une journée, le feu s'est attisé, وَأَفَقَ. Il s'est réveillé, il s'est évanoui, s'est réveillé, il a demandé, على ما جلت موتي. Pourquoi vous m'avez fouetté? C'est une question seulement, je voudrais savoir pourquoi vous m'avez souhaité. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ils lui ont dit, إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاتًا وَاحِدًا بَيْطَوَرْ. Tu n'as fait qu'une seule prière. Tu as fait une seule prière, et encore sans ablution, sans ablution. Et, وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصَرُهُ. Et tu es passé devant quelqu'un, tu savais que il était yani mazloum, il était dans l'injustice, on était en train yani de le, d'être injuste envers lui, tu ne m'as pas aidé, tu ne m'as pas aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as été fouetté dans la rue. Mais c'est le témoin, c'est quoi? On lui a dit, tu n'as fait qu'une salat, et avec quoi? Et encore sans wudu. Donc, Cheikh Al-Albani a dit, c'est quoi ici la preuve? Il a dit, c'est une preuve que celui qui ne fait pas la salat n'est pas kafir, n'est pas kafir. C'est Tahawi qui a dit ça, et Al-Albani qui a repris. Il a dit pourquoi? Il a dit, لأنه لو كان كافر, si c'était un kafir, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas exaucé son dua. Car il a dit dans le Coran, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Les dua des kafirines, c'est dans l'égarement. Je n'exauce pas un dua de kafir. Alors celui-là, il a fait des dua, et Allah Azza wa Jalla a exaucé son dua dans la tombe. Il a dit, au lieu que vous le fouettez 100 coups, donnez-lui un seul coup. Il a dit, voilà une preuve que celui-là, c'est pas un kafir. Et avec cela, il n'a fait qu'une seule salat. Il n'a fait qu'une seule salat. Ensuite, Cheikh Al-Albani a donné aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit, si je vais trouver là-bas, il a dit, c'est pas exactement où c'est, mais il a dit, comment se fait-il que du temps de nos aïeux, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, et on revient à l'arrière, 1000 ans, 10 000 ans, je ne sais pas combien de temps, jamais, au grand jamais, on a entendu ou appris que quelqu'un qui ne faisait pas la prière, qu'il fallait l'enterrer avec les chrétiens, ou là avec les juifs, ou là avec les kofars, et qu'il n'héritait pas, et que sa femme serait divorcée à l'instant même, et qu'on ne faisait pas la prière sur lui, et qu'on ne le lavait pas, et qu'il n'héritait pas. Il a dit, on n'a jamais vu ça dans nos aïeux. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un de votre famille qui est mort sans la prière, qui n'a jamais fait de prière, et que on l'a pas enterré dans le cimetière du musulman? Là, on a dit, sa femme ne mérite pas, c'est un kafir. Là, on l'a dit, on va pas le laver, on va pas faire la prière sur lui. Il a dit, ça c'est un délil que yani tous les gens, tous les salafs savaient que celui-là yani il n'est pas kafir, sauf s'il dit je ne reconnais pas la salat, ou bien il reste toute sa vie, il n'a jamais fait une prosternation dans sa vie, jamais. Il vit 60, 70 ans, il a dit, je ne fais jamais une prosternation. Il y a des gens qui disent comme ça, moi je connais quelqu'un qui dit comme ça, il dit juste, cette salat je la ferai jamais, il dit comme ça, il a à peu près 75 ans, et cette salat moi je vais la faire, jamais je la ferai, jamais, comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Le temps est terminé, j'arrête ici, inshallah ta'ala. Subhanallah, in asafta min Allah azza wa jalla, in akhtatu fa min nafsi wa min shaytan. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Intaqi inshallah dans 10 minutes, inshallah. Oum Sakina, assalamu alaykoum. Ce lien, où est-ce qu'il circule? Il circule là dans la salle, ou là où il circule ce lien? Barakallahu fik. Naam, c'est pour. Si c'est ici, je sais pas. C'est pour ça que j'ai dit toujours aux soeurs et aux frères de laisser les PV fermés. J'ai dit aux soeurs et frères de laisser les PV fermés. Comme ça, quand tu es dans le DAF, personne ne te fait des machakil, personne ne te fait des problèmes, ni t'envoie des PV, ni t'envoie des liens, ni dit des choses qui ne sont pas bien, ni te gêne pour le DAF. Quand on envoie des choses, on nous gêne pour le DAF. C'est pour ça que j'ai toujours donné le conseil à nos frères et nos soeurs peut laisser, inshallah ta'ala, le lien, aussi le lien, de fermer les PV, b'inna azzawajal. Inshallah ta'ala, je reviens dans 10 minutes. Salam alaikum. Salam alaikum. Question. هل فيه صوت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avant de commencer, inchallah, par les questions, je voudrais dire deux choses comme ça très vite. Deux choses comme ça très vite. Premièrement, en ce qui concerne maintenant, quand on a fait les doros sur les louches, etc., maintenant il y a beaucoup de femmes qui m'envoient. Yani, qui demande des choses, surtout sur les menstrues, des choses assez difficiles, yani, pour les femmes qui ne peuvent pas faire la différence entre yani, pureté et impureté, etc. C'est pour ça que j'ai pensé, moi, je me suis dit, le Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, a répondu à 60 questions, sur les louches, etc. Ces 60 questions, au lieu que je les fasse moi maintenant ou là, parce que j'ai une idée, je les ai mises sur mon blog. C'est pour ça que je demande à quiconque, des sœurs, qui a un problème sur les menstrues, etc., pour savoir, yani, son cas, qu'elle rentre dans le blog, yani, j'ai écrit fiqh femme, et qu'elle voit là-bas, yani, ah, non, voilà, mashallah. Donc elle voit là-bas, il y a Ourselafia, elle a dit j'ai lu cela, donc c'est elle dit c'est mashallah, c'est complet. Donc quand vous lisez là-bas, chacun, yani, il voit son cas où il se trouve. Chaque femme voit son cas où il se trouve. C'est peut-être la deuxième question, c'est peut-être la sixième, c'est peut-être la huitième. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais il faut faire très attention entre les cas, De toute façon, inshallah, celles qui m'ont écrit personnellement, je leur répondrai inshallah. Seulement, il me faut un peu de temps. Sauf si elles trouvent la réponse. Elle m'envoie pour me dire si j'ai trouvé la réponse. Autre chose, s'il y a des sœurs qui habitent à Bordeaux, je voudrais qu'elles me contactent pour que je leur donne le nom, chez le nom, l'adresse d'une sœur email. Je leur donne l'adresse d'une sœur email qui est nouvelle, et qui est dans cette ville toute seule et qui est perdue, pour l'aider, fisabilla, l'aider pas en argent, l'aider moralement, c'est-à-dire lui écrire. Peut-être la voir, peut-être aller chez elle, je ne sais pas comment faire, mais c'est une sœur, on m'a dit qu'elle habite Bordeaux, elle est nouvelle, et qu'elle est là-bas perdue. S'il y a une sœur, inshallah ta'ala, qui habite Bordeaux et qui voudrait faire quelque chose, qu'elle trouvera demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle me contacte, inshallah ta'ala. Tfadal, inshallah, première question, tfadal. Tawakkal ala Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pour les doigts qui sont exaucés le vendredi, c'est entre le Asr et le Maghreb. Si j'ai bien compris, on ne peut pas faire les nawafil pendant ce temps, avant le Maghreb. Donc, on fait les doigts sans rentrer dans la salle. Naam. Regardez. La plupart des ulama disent que on ne peut pas faire la salat après le Asr, nafila, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Et après le sobh, jusqu'au quoi? Jusqu'au lever du soleil, quand il se lève bien haut, assez haut. Car le hadith a dit comme ça. Mais Cheikh Al-Albani, al-Ahmatullah, a authentifié un hadith dans Irwa al-Ghalil. Ce hadith est très important. Où il dit quoi? Le hadith Ali, radiallahu ta'ala, c'est Ali qui l'a rapporté. Où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La salata ba'd al-asr, illa wa shamsu bayda naqiyya. Shams bayda. Naqiyya. Ce hadith veut dire que l'interdiction de la salat nafila après l'asr, c'est seulement quand le soleil commence à jaunir ou peut-être à rougir. Mais si on est juste après l'asr et le soleil est là au-dessus de nos têtes, jaune, assez blanc, blanc, il n'a pas encore jauni, il est blanc. Ni jauni ni rougi, il a dit qu'en ce moment on peut faire la salat. Donc le hadith la salat ba'd al-asr tatrou bish-shams, c'est un hadith mutlaq ou am, c'est un hadith général. Le hadith illa wash-shams bayda, c'est un hadith khass, et le khass muqaddam 'ala al-am amma la yakhfa 'alaykum. Donc on peut faire la salat directement après l'asr si on veut faire nafila. Mais puisque ces doua là En effet, le vendredi, de préférable en effet, lorsque le soleil commence à rougir, c'est-à-dire quand il reste seulement 1 heure du Maghreb ou bien 1 heure et demie, donc on peut faire 2 choses. Ou bien on fait seulement les doigts sans la prière. On lève les mains, on fait les doigts sans la prière. Ou bien on fait salat, on fait le doigt, pardon, le doigt, on fait les ablutions, on fait les ablutions. Et vous savez qu'il y a une sunna après les ablutions. C'est quoi cette sunna? C'est qu'on fait 2 rak'at pour les ablutions. Vous connaissez la sunna des ablutions. C'est de faire 2 rak'at après les ablutions. Donc si tu es du genre qui fait cette sunna, qui la préserve, la fait de temps en temps ou là tout le temps, donc fais les ablutions et fais 2 rak'at et tu profites pour faire les doigts, inshallah. Autre question, inshallah. Est-ce qu'il faut tenir compte de la voix ou du microphone lorsqu'une personne n'est pas obligée d'assister à la prière en commun? J'ai pas bien compris la question. Si quelqu'un rentre à la mosquée, il ne peut pas faire la prière ni seul. Il faut qu'il la fasse avec l'imam. J'ai pas compris. Sauf s'il fait la nafila ou là, sauf s'il rattrape une autre prière, une prière passée. Et maintenant, s'il veut la faire seul, par exemple, il est pressé ou là, qu'il aille dans un endroit, il la fait seul avant que l'imam commence. Avant que l'imam commence sa salat. Pourquoi? Pour ne pas, pour qu'il ne soit pas, yani, comme on dit, majrouh. Sinon, on va dire de lui pourquoi celui-là ne fait pas la prière avec les autres. Donc, celui-là, peut-être qu'il connaît des choses sur l'imam, il ne veut pas les dire. Ou bien celui-là c'est un chiite, les chiites ne font pas avec notre imam, ou bien c'est ceci, cela. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est voilà la réponse, Inch'Allah. Pas de nouvelle question, Inch'Allah. Comme cela, est-ce que le fait de faire la prière dans une chambre où se trouvent des représentations d'animaux, sur un abus d'êtres humains, sur la porcelaine, house, sur une pièce bleue, est-il annulatoire? Il n'est pas annulatoire, il n'annule pas. Il n'annule pas. Il permet pas aux anges de rentrer, mais la salat n'est pas annulée. La salat n'est pas annulée. On peut tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On peut les cacher au moins le temps de la salat. Par exemple, s'il y a un paus ou là, il y a un pigeon là, qui est dessiné ou là, on peut renverser l'assiette. On peut tourner les photos de l'autre côté. Si on rentre dans une maison, on a les photos. On les met dans le tiroir. On met un mouchoir sur la chose. On met une serviette sur la chose. C'est comme ça. Pour ne pas, yani pour permettre aux anges de rentrer, inshallah ta'ala. Mais même si on les laisse, on fait la prière n'est pas annulée, bi'idhnillah azza wa jal. Même si on fait la prière avec des habits, nos propres habits, qui ont des photos, qui ont des dessins d'animaux, etc., même si nous on fait la prière avec les habits, qui ont ces choses-là, la prière n'est pas annulée, mais on a le péché. On a le ithm pour avoir fait la salat avec un habit où il y a une âme que l'Azul a créée. Inch'Allah. Quels sont les doigts à réciter après cela? Le fajr, l'or, asr, maghrib, isha, dont il nous nomme 2 fois réciter chaque surat, chaque doigt. Ça, c'est très long. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Inch'Allah, tout ceci se trouve dans un petit livre qui s'appelle Adhkar Leil ou Nahar. Comment vous l'avez nommé une fois en français, comment il s'appelle ce livre de Al-Qahtani? Adhkar Leil ou Nahar. Et je te dis comme ça en général parce qu'il y a beaucoup de doigts, je ne peux pas te les dire tous. Je te dis, citadelle du musulman. Naam. Je te dis en général. Pour chaque salat, quand tu termines, tu dis Astaghfirullah, 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 Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, tabarak ya Jalal wal Ikram. Ensuite, tu peux yani faire ce doigt. Ensuite, si tu vas directement au tisbih, tu vas directement au tisbih, subhanallah, subhanallah, et alhamdoulilah, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Ensuite, tu termines par la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, tu lis ayat al-kursi. Des fois, tu lis ayat al-kursi, des fois, tu lis qul a'oudhu bi rabbil falaq, qul a'oudhu bi rabbin nas. Ça, c'est en ce qui concerne toutes les salats. Maintenant, pour salat subh, fajr, c'est pas fajr, salat subh et salat le maghrib, de préférence quand tu termines, et avant de lire, yani, au lieu de lire ayat al-kursi, لي 3 فوا قول هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 فوا، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. J'ai oublié aussi de dire que on dit aussi dans la sunna, on dit 10 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. 10 fois on dit ça, salat al-subh, salat al-maghrib. Inch'Allah, vous trouverez tous les détails dans ce livre bi'ibnillah azza wa jal. Fadlan, inch'Allah, nouvelle question. Salam alaikum, je voudrais savoir quel croyant pouvait intercéder pour d'autres musulmans en enfer, ceux qui ont été entièrement le Coran, etc. J'ai lu, vous savez que le shahid, celui qui mort shahid, il a l'intercession de 70. Il fait rentrer 70 membres qui sont en enfer de sa famille. Il les fait rentrer au paradis. Ça c'est qui? C'est le shahid. Le shahid a 70. Mais tous les autres croyants, inshallah, chaque croyant a au moins une intercession. Non, chaque croyant, je veux dire, qui était pieux, etc. Chaque croyant qui était pieux, etc., il a au moins une intercession. Et il peut en avoir plus. Et il peut en avoir plus d'après la piété qu'il avait. C'est pas seulement le Coran. Là, dit ici, apprennent le Coran, etc. C'est pas seulement le Coran. Le Coran, quand on l'apprend par cœur, il faut aussi l'appliquer. Et le Coran, il te permet de monter les grades dans le paradis. Là, je vais te dire, lis et monte. Lis et grimpe. Tu lis et tu montes. Plus tu connais le Coran, plus tu montes. Mais quel Coran? Le Coran, il y a un écran appliqué. Pas quelqu'un qui lit le Coran et qui fait toutes les bêtises du monde. C'est quelqu'un qui lisait le Coran et savait comprendre le sens et essayer d'appliquer. C'est celui-là qui a compris, qui a lu le Coran. L'autre, en fait, il n'a pas lu. Celui qui a lu les lettres, il n'a pas lu le sens du Coran. Celui-là, en fait, il ne l'a pas lu. Donc, ensuite, bien sûr, il y a l'intercession des anges, l'intercession des prophètes. Et finalement, l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai lu que chaque croyant a au moins une intercession. Allah subhanahu wa ta'ala, alam, tfaddal. Une question, inshallah. Hila n'était pas là, elle vient de rentrer. Hila vient de rentrer. S'il n'y a plus de questions, on sort du cours. On sort du cours, inshallah. Il n'y a pas de questions hors coréanais. Pour une femme, le fait qu'elle se dévoile devant son mahram, devant des non-mahrams, qu'elle travaille avec des pantalons moulants et qu'elle arrête de faire la salade régulièrement, de prier pendant plus d'un mois, parfois. Est-il un motif de divorce valable pour son mari? Pouvons-nous faire pour notre nawazil à chaque salade à la maison seule ou à la mosquée si nous sommes imams? Devons-nous faire le compte nawazil avec le repas à la règle pour le compte tué? Quand un mari a une femme de ce genre, c'est-à-dire qui arrête la prière de temps en temps, des fois plus d'un mois, et qu'elle s'habille comme ça avec des pantalons moulants, avec des non-mahram, etc., il faut lui faire la nasiha. Il faut que son mari lui fasse beaucoup de nasiha. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui va payer aussi. Parce que lui, il est responsable d'elle. Lui aussi, il va payer demain. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih qui dit que trois personnes, leur dua, yani, s'ils font des dua ou là, ils ne sont pas exaucés. Yani, ils ne sont pas exaucés vis-à-vis des gens. Quoi. Ils leur demandent des choses, etc. Yani, on ne leur exauce pas leurs souhaits. Il a dit, l'un des deux, lui qui a une femme, qui a un mauvais comportement, et il ne la divorce pas. Non. Lui là, ce n'est pas la peine après de dire aux gens, aidez-moi, ceci, cela. Quand tu savais qu'elle n'était pas bien, tu l'as laissée. Il fallait la divorcer. Mais avant le divorce, il faut lui faire la nasiha. Peut-être qu'il a des enfants avec elle, peut-être qu'il a un long passé avec elle. Il lui fait la nasiha. Si c'est vraiment une sœur, elle doit lui obéir et regretter ce qu'elle a fait et ne plus laisser la prière. Surtout la prière. Surtout la prière. Cheikh Ibn Uthaymeen, l'Ahmou, a dit qu'une femme pouvait demander la séparation pour seulement si son mari faisait la prière à la maison. C'est-à-dire, il fait la prière, mais à la maison. Qu'en est-il pour quelqu'un qui ne fait pas la prière? Il la laisse, yani, il ne la fait pas du tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, surtout, de s'habiller avec des pantalons devant les non-mahrams. Naam, de s'habiller avec des pantalons devant les non-mahrams. Lui fait la nasiha, S'il voit que ça ne marche pas, s'il voit que ça marche pas, il fait salat istikhara, et s'il veut yani, il se sépare d'elle, inshallah ta'ala. Pouvons-nous faire qunut nawazil à chaque salat à la maison? Qunut nawazil, en principe, quand on le fait, quand on est à la mosquée, même l'imam, en principe, il ne le fait pas de lui-même. Qunut nawazil, c'est le gouverneur qui te dit de le faire. C'est le gouverneur qui donne un ordre. Il dit faites qunut nawazil. Parce que quoi? Sinon, chaque personne va voir que ce qui s'est passé aujourd'hui, on doit faire pour lui qunut nawazil. À n'importe quoi, il y a une épicerie qui a été incendiée. Il y a l'imam du quartier, il va dire on va faire qunut nawazil. Il y a quelqu'un qui est mort, qunut nawazil. Il y a, je ne sais pas, quelque chose qui est tombé du balcon, qunut nawazil. Non, qunut nawazil, en principe, c'est le gouverneur qui te dit de le faire. C'est le gouverneur, c'est lui qui décide, on fait qunut nawazil, on ne le fait pas. En ce qui concerne qunut al-witr, tu le fais de temps en temps. Qunut al-witr, tu le fais de temps en temps. Naam, tu le fais avant le recours. Qunut al-witr, on le fait de temps en temps, et ce n'est pas tous les temps. Sauf au Ramadan, on le fait les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours. Et on ne fait pas aussi tous les 10 derniers jours, mais de temps en temps. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Une autre question, inshallah. Wa alaikum salam, inshallah. Je voudrais savoir si les prières regroupées sans raison après le travail étaient valides. Et si c'est non, alors faudrait-il démissionner de son travail et vivre des aides sociales ridicule. Non, quelqu'un qui travaille, yani on ne lui permet pas de faire la salat dans son travail, etc. Celui-là, il doit faire beaucoup de dua. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui ouvre une porte pour qu'il trouve un travail où il peut faire la prière à l'heure. Pour qu'il trouve un travail où il peut faire la prière à l'heure. Je ne peux pas prendre la responsabilité et dire à quelqu'un, laisse ton travail et va vivre avec comment ça s'appelle, les aides sociales ou la demande aux gens de te donner à manger. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Mais je lui demande de faire beaucoup de doigts pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il trouve un travail où il peut faire la prière à l'heure. La prière à l'heure. Mais je voudrais dire une autre chose. Comme on dit, il y a le mal qui est grave, il y a le moins grave et on descend. Mais c'est tous des mots, c'est tous quelque chose qui n'est pas bien. De toute façon, grouper la prière, c'est mieux que de ne pas la faire. Quand on groupe la prière, ce n'est pas bien. Mais c'est mieux que de ne pas la faire. Ça s'appelle Akhaf Dararin. Naam. Akhaf Dararin. C'est-à-dire, Mimbab Itizambi Akhaf Dararin. Quand en islam, quand on est obligé de faire deux choses, mais les deux ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit le moins mal. Par exemple, je meurs de faim. Là, je vais mourir de faim. J'ai trouvé un mouton qui est mort. On ne l'a pas égorgé, il est mort. Et j'ai trouvé un sanglier qui est mort. Les deux sont haram. Le mouton mort, c'est haram, il n'a pas été égorgé. Qu'est-ce que je fais? Je mange le mouton mort et je ne mange pas le sanglier mort. Pourquoi? Parce que c'est le moindre mal. Yadib, yani, ifizambi, akhaf dararin, litafuit, adamihima. Litafuit, adamihima. Quand un homme, par exemple, ou là une femme, par exemple, c'est que, ou bien elle obéit à son père, ou bien elle obéit à son mari. Son père lui a dit, donne-moi cette pomme, je veux la manger. Son mari a dit, donne-moi cette pomme, je veux la manger. Elle ne peut la donner qu'à un seul, elle ne peut pas la diviser. À qui doit-elle obéir? Elle la donne à son mari. Pourquoi? Parce que, elle est obligée de faire ou bien cette chose, ou bien l'autre. Le moins mal ici, c'est quoi? Et de la donner à son mari et non pas à son père, c'est le moins mal. Ça s'appelle faire le moins mal. Quand quelqu'un, il a été par exemple excité, il est moindre mal. Non, il est excité, il a deux femmes. L'une est un monstru, et l'autre, elle a jeûné un jour obligatoire. Faire avec un rapport avec sa femme monstrueux, c'est haram. Et faire avec sa femme qui a jeûné un jour obligatoire, c'est haram. Parce qu'elle n'a pas fait une nafila, elle a fait obligatoire. C'est des dettes. Et que va-t-il faire ici? La fille est excitée. Il va vers sa femme qui a les menstrues ou la l'autre qui a jeûné l'obligatoire. Il va vers sa femme qui a jeûné l'obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est moins grave que faire cette chose avec une femme aux menstrues. L'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape un autre jour. Mais ça là, c'est haram. Donc les deux, c'est haram, mais c'est le moindre mal. Je disais ici, donc celui qui groupe dans le travail est mieux que celui qui ne fait pas du tout la prière et il se dit, moi, je n'ai pas où la faire. Donc je la fais pas et je reste comme ça. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. J'ai beaucoup de doigts, barakallahu fik. Tafadhal. Salam alaikum. J'ai fait de l'insomnie, je pensais qu'il était bien de retarder l'Isha. J'ai dépassé minuit, je la fais. Des fois 1 heure ou 2 heures du matin en pensant qu'il est très bien de retarder. Quelle est la règle? Quels sont les avis, barakallahu fik, et le qunut nawazil? La règle, c'est de ne pas dépasser minuit. Si on dépasse minuit, on n'est plus dans la Isha. On n'est plus dans la Isha. C'est pour ça que si quelqu'un la laisse comme ça, sans excuse, jusqu'à minuit, et comme on dit les ulama, c'est pas la peine qu'il la fasse parce que ça ne va pas compter. Il faut qu'il fasse le repentir. Mais si, comme tu dis toi, tu es excusé, tu dis j'ai fait de l'insomnie et je pensais ceci, je croyais ceci, là, tout ça, c'est inshallah ta'ala, c'est pas grave. Mais celui qui sait que dans 1 heure, il n'y a plus l'Aïcha. Et il se dit, non, je ne vais pas la faire jusqu'à 2 heures du matin. Celui-là, il a fait un péché, comme j'ai dit tout à l'heure. Quelle est la règle et quels sont les avis? Non. Qu'est-ce que le qunut nawazil? Nawazil, c'est quand il se passe quelque chose, pour les musulmans. Par exemple, il se passe un cas grave, par exemple, où beaucoup de musulmans meurent, comme par exemple, comment ça s'appelle? Kofan. Comment ça s'appelle? Kofan, par exemple, c'est, par exemple, comme l'eau. L'eau qui couvre la ville. L'eau, comme ça s'est passé à Tsunami, ça s'est passé une fois à Alger, etc. Ça, il y a beaucoup de musulmans qui meurent. Ah, je vais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nuh, alayhi salam, il avait une inondation. Ça, Nuh, qu'est-ce qui s'est passé? Le tofan de Nuh. Tout le monde le connaît. Je disais, là, les musulmans font quoi? Font le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, en une journée, il a perdu 70 des gens qui apprenaient le Coran. Ils sont morts en un jour. 70. Il y en a qui apprennent le Coran, c'est pas quelque chose de rien. Maintenant, il y en a des milliers, des millions. Autrefois, hein, pour quelqu'un apprenne le Coran, imagine 70 qui meurent d'une fois, il a fait doua, qunut nawazil. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas n'importe qui fait le qunut nawazil. Inch'Allah. Salam alaikum. Il y a une soeur qui a enregistré le dors, inch'Allah. Si c'est le cas, pourrait-elle me le dire, inch'Allah? Ah. Je ne peux pas prier au travail et de ce fait, je ne peux pas faire mes salats à l'heure. Je les rattrape le soir. Suis-je kafir? Tu n'es pas un kafir. Tu n'es pas un kafir. Je ne peux pas prier au travail et de ce fait, je ne peux pas faire mes salats à l'heure. Je les rattrape le soir. Rattrape-les, c'est mieux que de ne rien faire parce que toi, au moins tu te dis, c'est le travail, etc., je peux pas. Voici. Bien sûr, c'est pas bien et c'est un peu grave. Mais, rattrape-les, en ce sens que quoi? En ce sens que tu te dis, j'ai pas où faire la prière, etc. Pour ça, il faut faire des doigts pour quitter ce travail. Il faut faire des doigts pour quitter ce travail. Le travail où on ne te laisse pas faire la prière, c'est pas un travail de musulman. C'est pas un travail de musulman. Ensuite, tu peux être coincé par autre chose. Le jour du jugement dernier, tu peux être coincé par autre chose par laquelle? Par la hijra. Allah Azza wa Jalla te dira, que faisais-tu dans ce pays alors que tu savais que tu pouvais pas faire ton dîn? Qui t'a dit de rester dans ce pays? Est-ce qu'on t'a ligoté les mains? On t'a enchaîné les mains? Qui t'a dit de rester dans un pays où tu ne peux pas faire la prière? Pourquoi tu n'es pas faire partie dans un pays où tu peux faire la prière alors? Voilà, hawla. J'ai dit que quand on est dans une pièce où il y a des images, s'il y a une autre pièce, on sort de la pièce où il y a les images. Si on a une deuxième pièce, on va dans la deuxième pièce où il n'y a pas les images. Maintenant, si on est dans une pièce, il n'y a qu'une seule pièce. Il n'y a pas deux, trois, quatre. Il y a une seule pièce et il y a des images. Maintenant, si je peux, je cache les images, si je peux. Je cache les images le temps de faire la prière. Je mets une serviette sur cette image, ce cadre. Je le retourne de l'autre côté, celui-là je le mets dans le tiroir, etc. Maintenant, si je suis dans un travail ou là je ne sais pas où, où je peux pas changer, je peux pas couvrir. Qu'est-ce que je fais? Je fais la prière et je la laisse pas passer. Je fais la prière dans une pièce où il y a les images et que je ne peux pas changer car ce n'est pas de ma faute. Je fais la prière et je laisse pas la prière partir. D'ailleurs, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu faisait la prière et beaucoup de sahaba ont fait la prière dans l'église. Dans l'église. Et vous savez que l'église est pleine de photos, si ce n'est pas des statues. C'est pour ça que les ulama ont dit, pour faire la prière dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait des statues. Il ne faut pas qu'il y ait des statues. Tfadla, inshallah, nouvelle question. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quel est le jugement sur une personne qui prie derrière un imam qui prie en pantalon? Le jugement de qui? Le jugement du imam ou le jugement de celui qui prie derrière lui? Parlons des deux, inshallah ta'ala. En général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah, je crois que c'est dans le jama' sahih. Ida tasarwaltum fa'tazero. En ce sens, il a dit quiconque met un pantalon, qu'il mette sur lui un drap, c'est pas un drap. Yani, comme quelque chose qu'on met comme ça, comme une jupe. Ezar. En français, je sais pas comment on dit Ezar. Il a dit quiconque de vous met un pantalon, qu'il mette un Ezar. Un pont. Naam. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Quand quelqu'un met un pantalon, afin que, yani, quand il marche, yani, afin que le pantalon ne le moule pas, etc. Maintenant, il n'y a pas le Ezar. Qu'est-ce que tu mets? Tu mets une veste assez longue qui te cache par derrière. Là, tu mets un pullover qui descend un peu bas au milieu de tes cuisses. Et comme ça. Surtout quand c'est le moment de la prière. Si on est dans la maison, de préférence, chacun laisse un kamis. Un kamis, il le laisse spécialement pour la salat. S'il ne met pas le kamis dehors, au moins, il met un salat pour la prière. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes fainéant au point que vous ne pouvez pas mettre deux habits pour Salat al-Jumu'ah. On doit lui cacher nos meilleurs habits pour le Jumu'ah. C'est pas comme font beaucoup de nos frères. Il va avec la tenue de la combinaison de la mécanique. Il travaille mécanicien et il rentre avec la combinaison pleine de graisse. Il va faire la prière de Jumu'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc quand on est à la maison, si on ne met pas le kamis dehors, au moins on le met à la salat. Car Allah Ta'ala a dit, khudou zinatakum 'inda kulli masjid. Yani, prenez votre parure à chaque fois que vous allez faire la prière. Comme ça a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, si on l'a fait seulement avec le pantalon, on risque d'avoir des péchés. Parce que quand on s'incline, yani, celui qui est derrière nous, il voit notre aura, elle se dessine. Et même si on est seul, les anges qui sont avec nous voient notre aura, et puis Imam Allah subhanahu wa ta'ala, notre aura est dessinée. C'est pour ça que dans la salat, même tu fais la salat dans la maison, si tu n'as pas de kamis ou là, prends quelque chose et mets-la autour de tes hanches. Comme prends ce qu'on appelle une serviette. C'est la serviette avec laquelle on s'essuie, la grande serviette. Quand on prend une douche, on s'essuie avec une grande serviette. Mets-la sur tes hanches et fais la prière. Moi, à la rigueur, quand tu t'inclines, surtout tu te prosternes, tu n'es pas un imakchouf. Ta aura n'est pas dessinée. Maintenant, quand on fait la salat derrière imam qui est comme ça, on voit. S'il y a une autre mosquée, où il y a un imam qui est avec un khamis et la mosquée n'est pas loin, on va à la deuxième mosquée. S'il n'y a que cette mosquée, on fait avec lui la prière et c'est lui qui a les ismes, c'est pas nous. C'est lui qui a les ismes, c'est pas nous. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous saluons à l'akum, fa'in asabu fa'lakum wa lahum, fa'in akhta'u fa'alihim wa lakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez faire la prière avec des gens, s'ils font la faute, c'est sur eux et vous avez le hajr. Et s'ils font pas de faute, les deux vous avez le hajr. quand tu fais avec la prière derrière quelqu'un qui fait les fautes, ça ne s'habille pas comme il faut, ou là il ne fait pas comme il faut, c'est lui qui a le péché, ce n'est pas toi qui l'as, mais il l'a Azza wa Jal. Autre question, Inch'Allah. Jibril, a-t-il vu Allah? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a personne dans cette vie, dans ce monde, depuis que Allah Ta'ala a créé le monde avec tous ses anges et ses prophètes et ses djinns et ses personnes et ses animaux, que quelqu'un a vu Allah. Jamais ou grand jamais. C'est pour ça que le prophète Hassan a dit wa'alamu anna ahadan, ahadan yani personne, anna ahadan lam yara rabbahu hatta yamut. Il n'y a personne qui peut voir Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il meure, même s'il est Jibril ou Israfil ou Mikaël, il ne peut pas les voir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr qu'il est mieux que Jibril et Israfil, et il n'a pas vu Allah. Comment le verrait-il, d'autres le verraient? Naam. C'est ça, Aqid al-Sunnah al-Jama'a, que personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne sera vu que le jour du jugement dernier et au paradis. Tafadhal. إذا فاتتني السنة الراتبة فأقضيها بعد الصلاة. نعم نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصاري كيليا par exemple avant le ظهر il y a 4 ركعات. Et certains font 2. Si vous faites 2 c'est aussi valable. Il y a la sunna qui a dit 2 ركعات et elle a dit 4. Les 2 sont vrais. Maintenant si tu as l'habitude de faire 4 ركعات avant le ظهر et 2 après le ظهر, tu arrives à la mosquée, خلاص l'imam a commencé la prière du ظهر. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences avec lui ظهر. Quand tu termines, tu commences par les 4. Si tu as l'habitude de faire 4 avant le dos, tu commences avec les 4. Tu termines les 4, tu fais les 2. Naam, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et c'est la même chose pour les autres salats. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Allah vous accorde le meilleur. Amin. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, un homme a dit qu'on est musulman, Algérie. Il ne prie pas, mais il ne rejette pas la prière. Il sait qu'il est en tort et il boit parfois de l'alcool. Pouvez-vous confirmer ou pas que je ne peux pas manger la viande qui est gorge? Barakallahu fik, sachant 7 ans, jeune. Naam. Cher frère ou la chère soeur, si tu es de l'avis du Cheikh Al-Albani, à la Rahmatullah, qui dit que tant qu'il reconnaît qu'il y a la prière et qu'il est en tort, qu'il n'est pas kafir. Si tu es de cet avis, qu'il n'est pas kafir, tu peux manger de sa viande quand il égorge, même s'il boit de l'alcool. Si on boit de l'alcool, on ne devient pas kafir quand on boit de l'alcool. On a fait un péché, on a fait un grand péché. Si tu es de l'avis, qu'il n'est pas kafir. Si tu prends de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen et les autres qui disent que quiconque ne fait pas la prière est kafir, dans ce cas, non seulement tu ne peux pas manger sa viande, mais tu es divorcé de lui. Dès qu'il ne fait pas la prière, tu fais la période de viduité et tu es automatiquement divorcé. Parce que un kafir ne peut pas épouser une musulmane et ne peut pas l'approcher, faire des rapports avec elle. Donc ça dépend de l'avis avec lequel tu marches. Et quand tu marches avec les avis, il faut, c'est une sœur, naam, il faut. Yani, c'est pas par tentation. Je suis Albani ou là je suis X par tentation. Je suis par Dalil. Je lis les Dalil et je les suis. C'est pour ça que, la hawla wa la quwwata illa billah, regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen, la yahmou. Ce qui montre que c'est un grand alam. Qui montre, masha'Allah, la quwwata illa billah, alayh. Masha'Allah, alayh, la quwwata illa billah. Ce qui montre que c'était vraiment un grand alam. Yani, pas un alim seulement, un grand alim. D'ailleurs, même une fois, je parlais avec Cheikh Abdelmalik Ramadani, on a parlé de Cheikh Ibn Uthaymeen. Je lui ai dit, Wallah, moi, toute ma vie, j'ai beaucoup penché vers Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Mais quand j'ai connu Cheikh Ibn Uthaymeen, je lui ai dit, yani, c'est autre chose. Alors, Cheikh Ramadani m'a répondu, il m'a dit, c'est une mer, bahr, mais une boukhour. Et qui commence, yani, c'est Taqrir al-Masa'il. Je disais, ce qui montre que Cheikh Ibn Uthaymeen était un grand savant, qu'est-ce qu'il a dit une fois, je l'ai lu dans un de ses livres, il a dit, et dans les pays où leurs ulama, leurs savants, ne disent pas que celui qui ne fait pas la prière est kafir, il n'est pas kafir. Regardez, lui, quand il donne la fatwa, on lui dit quelqu'un ne fait pas la prière, il dit il est kafir. il a dit, mais si cette personne dont vous demandez se trouve dans un pays où leur ulama ne disent pas il est kafir, il a dit donc il n'est pas kafir. Tandis comme en Algérie, vous demandez à n'importe qui là-bas, vous dites non, celui qui n'est pas, qui fait pas la prière, il n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que tous sont très très muta'affirin bi ilm Sheikh Al-Albani. Vous savez qu'en Algérie, c'est son ilm qui est rentré le plus. Ses cassettes, ses livres. Le Sheikh Al-Albani, là, je lui a ouvert beaucoup. Yani les cœurs des Algériens, que vous devez le savoir. Les frères et les sœurs, yani, ont commencé là-bas, ont connu la salafia à travers Sheikh Al-Albani. C'est pour ça que la plupart là-bas disent qu'il n'est pas kafir. Donc maintenant, si toi tu prends cet avis, il n'est pas kafir, tu manges ce qu'il est gauche. Si tu prends l'autre avis, tu fais la période de viduité, ensuite tu vas chez tes parents, et il nous l'a azzawajal. Ta soeur précise qu'il a fait déjà de la sorcellerie. Non, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes font la sorcellerie. C'est quoi? C'est un isme, c'est un grand isme. Le fait qu'il fasse de la sorcellerie, c'est un grand isme. C'est pour ça que les ulama ont yani, divergé sur est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir. Quand quelqu'un fait de la sorcellerie, est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir? Est-ce qu'on le tue? On le tue pas. Le Cheikh Ibn Uthaymeen a fait la différence entre celui qui fait la sorcellerie avec les djinns, en contact avec les djinns, et celui qui fait la sorcellerie en faisant manger aux gens des choses. Il leur fait manger par exemple l'osmo, les cuisses de la grenouille, ou là il leur fait manger quelque chose d'un rat, etc. Il a bien fait la différence entre les deux. Il a dit le premier, on le tue, le premier. Celui qui fait la sorcellerie à l'aide des djinns. Et l'autre, non. Celui qui yani, t'a donné quelque chose de la grenouille, ou là, il a dit celui-là, en principe, il t'a donné une sorte de poison. Et il t'a donné une maladie. C'est pas comme l'autre sihr. El Mohim. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Salam alaikum. La sejda. La prostration du tracant. Doit-elle se faire seulement pendant les prières obligatoires ou même sur les oratoires? La prosternation de la distraction. C'est quoi? Ah, sujoud sahou. Naam, sujoud sahou, il se fait dans l'obligatoire et dans. Naam, sujoud sahou, il se fait dans l'obligatoire et dans la nafila. Dans la prière surérogatoire, tu fais aussi. Si tu as oublié quelque chose ou là, tu fais sujoud sahou, la même chose. Il n'y a pas de différence entre nafila et entre le fard. Naam, les kulli, comme a dit le prophète, les kulli, sahouin sujoud. Kulli sahou, sujoud, que ça soit nafila ou bien que ça soit obligatoire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal. Quel est le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam Younous dans la baleine en arabe? En arabe, vous parliez de cuisse de grenouille, est-ce halal à la consommation? Quel est le doua du prophète Younous dans la baleine? Je crois que le doua, c'est celui qui est dans le Coran. Lorsqu'il a dit La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min zalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min zalimin. Pourriez-vous parler, vous parliez de cuisses de grenouille. Est-ce halal à la consommation? Moi, quand je parlais de cuisses de grenouille, je disais que c'est le sorcier qui nous fait manger cela. Mais nous, on ne mange pas la grenouille, car la grenouille, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de la tuer. Il est interdit de tuer la grenouille. Sauf bien sûr dans Darura. Darura, c'est autre chose. Mais trouver une grenouille comme ça dans la rue, la tuer, c'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans le Jami' al-Sahih de Sheikh Al-Albani, il a dit, la grenouille, quand on la voit, on remarque que sous son cou, il y a quelque chose qui bat. On voit un battement sous son cou. Et la nuit, elle a une voix, elle croise, ou là, comment on dit. Ça, c'est un tusbih. Elle est en train de faire le tusbih, Allah subhanahu wa ta'ala. La grenouille, il est interdit de la manger. Ce sont les Chinois qui la mangent. Tu vas dans le restaurant là-bas, tu leur dis, donnez-moi des cuisses de grenouille. Si tu veux aller là-bas, mais moi, je me désengage. Hein? Moi, je suis béré. Donc, tu vas là-bas et tu leur demandes des cuisses de grenouille. Et moi, je suis béré. إن شاء الله تعالى. تفضل. Toutes les, quelle est salat, la salat la plus importante? Toutes les salats sont importantes. Toutes. Toutes. Et plus précisément, dans les importantes, il y a les plus importantes. Salat al-subh ou salat al-asr. Salat al-subh et salat al-asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Men salat al-bardain dakhal al-jannah. Quiconque, yani, se préserve et fait tout le temps ces deux salats, subh et al-asr, il a dit, il ira inshallah ta'ala au paradis. Ensuite la zoujil a dit hafidu al salawati wa salat al wusta, hafidu, préservez vos salats et la salat du milieu. La salat du milieu dans le hadith sahih c'est salat al asr, elle est très 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 importante inshallah ta'ala. On va en reparler très prochainement inshallah ta'ala, mais ça ne veut pas dire que les autres salats ne sont pas importantes. Toutes les salats sont importantes, sont importantes, et certains sont plus importants que l'autre, que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Quel est le jugement sur le port du Iza pour la prière cette sunna? Et c'est où y a-t-il des délices et c'est ce qui marque vos questions? Sur le port du Iza pour la prière cette sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait yani, dans ce sens que quiconque de vous met un pantalon qu'il mette un ézar, car il faut savoir que autrefois c'était leur zabi, autrefois c'était leur zabi, autrefois il n'y avait que deux choses, ou bien tu mettais le ézar et par en dessus yani sur les épaules tu mettais comme une sorte de drap plus le ézar en bas qui couvre les hanches jusqu'en bas. Maintenant ce n'est plus les choses que les gens mettent. Ce n'est plus les choses que les gens mettent. Mais on doit mettre quelque chose qui y a comme maqam ezar, qui remplace l'ezar. Quelque chose qui remplace l'ezar, c'est quoi? À peu près le qamis. D'ailleurs, le prophète Aslam mettait le qamis. Pourquoi? Parce qu'il est long et il ne dessine pas. Le qamis, quand on est à l'intérieur, on a un qamis. On n'a pas notre aura qui est dessinée. On n'a pas nos cuisses qui sont dessinées, notre aura, etc. C'est pour ça que il est de la sunna de quoi? De mettre quelque chose de large et non pas spécialement un ézar. Un ézar c'était autrefois. Non, un ézar c'était autrefois. D'ailleurs, si maintenant quelqu'un, par exemple, sortait dans la rue avec un ézar, il attirait vraiment l'attention des gens. Et il rentrera dans le hadith que quoi? Qui dit que quoi? Qui dit que yani libas shuhra. Il s'est fait remarquer, tout le monde le montre des doigts. C'est ça, il rentre dans l'interdit. Il rentre dans l'interdit parce que il se fait remarquer et on le montre des doigts. Nam. J'ai beaucoup de questions en salat, puis j'ai posé en fin de partie aux autres questions. Nam, commence par ceux qui ont rapport avec la salat. Nam. Concernant la concentration dans la prière, est-ce que le fait d'être discret dans la prière pourrait dépenser 10 minutes de la récompense dans la prière? Malgré que l'on fait un combat pour ne pas y penser, et quel conseil pouvez-vous donner pour être mieux concentré? Man, le fait de ne pas être concentré dans la salat diminue la récompense. Man, il a diminué, comme dans le hadith sahih. Le hadith sahih, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il est dans le Sahih al-Jami' du Sheikh al-Albani. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand quelqu'un rentre dans la salat, à chaque fois que yani, il n'est pas présent avec son cœur, il n'est pas présent yani, on lui écrit rien de la salat. C'est ça qu'il a dit, que certains sortent de la salat avec, il a dit, le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, il a dit un demi. Et quand on sort avec yani, un demi, la récompense, yani, sa moitié s'en va dans l'air. Sa moitié s'en va dans l'air. Mais je voudrais dire que plus on essaye de combattre, plus, inshallah ta'ala, la zawli ne t'enlève pas de récompense. Pourquoi? Parce que tu essayes de faire le djihad au shaitan et tu essayes de faire le djihad à tes pensées. La zawli a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Et le prophète Ali sallam a dit dans le hadith Rawa Ahmed, Sahaw Sheikh al-Albani, il a dit Jahadu fima et Jahadu anfusahum fi dhatillah. Donc celui-là, la personne qui, depuis qu'elle dit Allahu Akbar, elle est en train de faire le jihad pour rester dans la salah, celle-là déjà, inshallah ta'ala, elle a ajr pour le jihad. Et pas comme celui qui rentre dans la salah et qui lui-même aime et commence à s'attirer des pensées comme ça. Commence à s'attirer. Qu'est-ce qu'il y a là à manger ce soir? Qu'est-ce qu'il y a comme film? Qu'est-ce que je vais faire la nuit? Où je vais aller? Je ne sais pas. Ça, c'est lui qui attire les pensées. Mais l'autre, non, les pensées viennent et lui, il essaie de les éloigner de lui. Celui-là, c'est un mujahid, inshallah. Celui-là, c'est un mujahid, inshallah ta'ala. Je voudrais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, quelqu'un est venu lui dire, Ya Rasulallah, le shaitan ne m'a pas laissé faire la salat. Quand je commence, je commence à faire la prière, je sens que je peux pas, yani mon cœur n'est pas avec moi, aql n'est pas avec moi. Comment, yani, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et le hadith est dans Sahih Muslim, il lui a dit justement, ce shaitan s'appelle Khinzab. Ce shaitan s'appelle Khinzab. Regardez, même les shayatins, ils ont des noms. Allah. Je ne sais pas s'ils sont marqués à la mairie ou ils ne sont pas marqués. Mais ils ont des noms. Il a dit, celui-là, il s'appelle Khinzab. Qu'est-ce qu'il fait, ce Khinzab? Et celui-là, c'est un shaitan spécialement de la salat. Dès que tu dis Allah Akbar, il est avec toi. Allah Akbar, il est debout avec toi. Et il commence à te montrer des choses, à te faire penser des choses, etc. Jusqu'à ce que, yani, ta salat ne soit pas acceptée, ou là que tu dises n'importe quoi, là que tu fasses 5 au lieu de 3, ou là 3 au lieu de 4. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, écoute, quand tu sens qu'il est avec toi, tu dis à Oudoublam Ishtaradim, tu tournes à gauche et tu craches 3 fois sur ton épaule gauche. Yani, pas il crache beaucoup, hein, comme ça, seulement, comme ça, seulement avec la bouche, yani, il fait sortir seulement yani, un peu de salive. Le compagnon a dit, j'ai essayé cela, alhamdoulilah, le shaitan est parti. J'ai essayé cela, il m'est venu une autre fois, j'ai dit à Oudoublam Ishtaradim, 3 fois, il a dit, alhamdoulilah, le shaitan est parti. Mais remarquez que quand on fait cela, on le fait yani, sur nos épaules, sur notre épaule gauche, c'est pas sur l'épaule droite de celui qui est à ma gauche, non. Parce qu'il va dire celui-là, il est fou, là, qu'est-ce qu'il fait, il est en train de me cracher sur moi, qu'est-ce qu'il est celui-là, il est fou. Tu risques même de recevoir un point dans la salat. Alors, on le fait seulement, yani, doucement, sans cracher, seulement avec dans ses... il y a seulement l'air qui sort avec un peu de salive et sur notre propre épaule. Pas sur l'épaule du voisin. Ensuite, j'ai entendu une fois Cheikh Abdelmalik Ramadani, Hafidhahullah, dans sa mosquée à Hydra, à Alger. Il a dit que cette sunna, on l'applique quand on est seul, pas quand on est avec l'imam. Parce que l'imam, c'est lui qui est tahammal anta. L'imam, toi, quand tu es derrière lui, ta salat, mashallah, elle est toujours juste. Pourquoi? C'est lui qui est responsable de toi. Mais cette sunna, tu l'as fait quand tu es seul. Quand tu es seul, à la maison, nafila, ou là, la femme, quand elle fait la prière, ce blanc, il lui vient le shaitan, elle fait comme je viens de dire. Ensuite, dernière chose, si tu veux avoir la concentration dans la salat, il faut travailler dur pour l'avoir. Comment travailler dur? Il faut essayer de laisser ton cœur qui ne bat seulement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ne penser qu'à ce que l'azul aime. Ne faire que ce que l'azul aime. Ne penser qu'à l'au-delà, qu'à la salat, qu'à ceci. Lire le Coran, lire les livres de la sunna, demander le fiqh. Là, tu sentiras quelque chose que l'azul va descendre sur ton cœur et tu sentiras la faveur et la saveur et le plaisir de la salat alors que tu seras concentré. Mais celui qui passe son temps à droite à gauche avec la musique, à dire n'importe quoi, à s'asseoir avec n'importe quel avec n'importe quel genre, celui-là, il est impossible qu'il trouve la concentration dans la salat. C'est pour ça que notre religion nous apprend que quoi? Nous apprend que avant de rentrer par exemple dans la salat, on fait les rawatib. Les rawatib, c'est quoi? Pourquoi tu fais 4 avant le dhuhr? Tu fais 4 avant le dhuhr pour avoir un peu de concentration avant de rentrer dans le dhuhr, qui est le fard. C'est pour ça que celui qui vient celui qui vient avant de rentrer dans la salatul dar, il a fait par exemple 4 rawatib, il s'est préparé, masha'Allah, hein, il était dans la salat, sur l'obligatoire nafila, il a dit Allah Akbar, subhanallah, il a dit ceci, maintenant il va rentrer dans le fard. C'est une continuation, il va sentir de la concentration. Mais celui qui vient par exemple de la télévision, il était en train de voir un film, il le laisse en plein milieu, il vient faire la salat. S'il voit un film cowboy, celui-là, au lieu de dire Allah Akbar, il va tirer, il va dire pa, pa, il va tirer dans la salat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concentré, sa tête est avec le film. Et celui-là, il est en train de voir le match. Il laisse le match en plein milieu et il va faire la salat. Il dit Allah Akbar, il commence à frapper avec ses pieds. Il tire pénalty, lui. Il va tirer à la place du joueur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concentré. Alors faites la différence entre celui qui vient de la télévision, celui qui vient du café, celui qui vient qui était avec des filles, et celui qui vient de la ratiba. Il a fait la ratiba, il va faire la prière. Il y a une grande différence entre les deux. Une très très grande différence. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, on gagne les croyants, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ, ceux qui ont la concentration dans la salat, et voilà le témoin, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, et ceux qui sont loin des futilités. Naam. Il a dit ce verset juste après la concentration. Ça veut dire, si tu veux la concentration, éloigne-toi des futilités. Éloigne-toi des films, des plaisanteries, des ceci, des cela, et tu vas voir que, Inch'Allah, tu vas trouver la concentration. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut travailler un peu pour l'avoir. Yani, on l'a pas en plaisantant et en jouant, après on va avoir la concentration. Fadlan, Inch'Allah, sou'ad. Quelqu'un m'a écrit en PV, il m'a dit, j'ai pas bien compris sur le crachage. Le crachage, il a dit, il n'y avait pas de son. Je répète, quand quelqu'un est dans la salat, il trouve qu'il ne sait plus ce qu'il dit, etc. Là, il sent qu'il est en train de penser à autre chose. Il n'est pas seulement penser, tout le monde pense. Mais penser un peu, il y en a beaucoup. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il était dans la salat. Dès qu'il a terminé, il a sauté, il a couru vers sa maison. Ensuite, il est revenu avec une barre en or. Il a dit, dans la salat, je me suis rappelé que j'avais le lingou hada, je ne l'avais pas donné, yani, je ne l'avais pas fait en aumône, je ne l'avais pas dispersé entre les mendiants. Donc, c'est une preuve qu'en plein salat, il sait quoi? Il s'est souvenu qu'il y avait un lingot d'or dans la maison. Donc, tout le monde dans la salat peut se souvenir des choses. Mais pas au point, j'ai dit, où on sait plus ce qu'on fait. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on se tourne à gauche sur notre épaule gauche, et on crache 3 fois sur notre épaule gauche, doucement. Comme ça, on crache 3 fois sur notre épaule gauche, car c'est un shaitan qui s'appelle Khinzab, il vient spécialement dans la salat pour que tu ne saches plus ce que tu dis, et tu ne saches plus ce que tu lis. Voilà en ce qui concerne celui-là. Non, mais j'ai dit qu'on le fait pas quand on fait, pas quand on est derrière l'imam. On le fait quand on fait la salat seul. Ma femme peut le faire à la maison, celui qui fait la prière à la maison le fait. Pourquoi? Parce que quand tu es derrière l'imam, c'est lui qui est responsable de toi. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est lui qui est hamel, c'est lui qui fait juste. Et pour vous de l'alhamdoulilah, s'il fait faux l'imam, c'est lui qui sera jugé demain à ta place. Naam, nusalluna lakum. Naam, fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u fa alayhim wa lakum. C'est ça, alhamdoulilah, la faveur quand on est guidé par un imam. Quand tu es guidé par un imam, c'est lui qui est responsable. Quand tu dis Allahu Akbar, et c'est lui le responsable. Je disais que naam, ce shaitan vient spécialement dans la salat pour te faire souvenir des choses. Naam. C'est pour ça qu'il y a une fois quelqu'un. Non, d'abord, c'est pour ça qu'il y a un hadith sahih qui dit que quiconque fait les wudu, ensuite fait deux rak'at, et dans ces deux rak'at, il ne parle pas, yani il ne se parle pas dans son cœur de la dunya, il ne se parle de rien de la dunya, Allah Azza wa Jalla lui annule tous ses péchés. Yaghfir lahu, ou bien il a dit, yudkhiluhu al-jannah. Non, l'une des deux, j'ai oublié. Le hadith, il a dit, ou bien l'argent lui annule tous les péchés, ou bien il a dit, il rentrera au paradis. C'est quoi? Faire deux rak'at sans se parler. Mais avec ce shaitan dont je viens de parler, c'est un peu difficile. Il voudrait se faire parler. C'est pour ça qu'une fois, Abu Hanifa, un homme est venu chez lui, il lui a dit, j'ai caché un trésor et j'ai oublié où il est. Ça fait des mois que je cherche, j'ai oublié. J'ai creusé ici, j'ai creusé là-bas, j'ai creusé sous l'arbre, j'ai creusé, j'ai cherché sur le toit. J'ai oublié où j'ai caché le trésor. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Hanifa? Alors c'est simple. Va, Inch'Allah Ta'ala, fait les ablutions et va faire la prière de rak'at et essaye de ne pas penser à cette vie, ce bas monde. Juste il a dit Allahu Akbar, le shaitan était avec lui. Il lui a dit, khlas, je vais te montrer où est le trésor. Yani, voilà, tu l'as mis sous, dans cet endroit. Pourquoi? Parce que pour le shaitan, lui donner un trésor, c'est mieux qu'il fasse deux rak'at. Le shaitan s'est dit, je préfère lui montrer où se trouve le trésor qu'il fasse deux rak'at et Allah Azza wa Jal va le faire rentrer au paradis comme dans le hadith. Donc il lui a dit, attention, termine pas ta salat, attention, je vais te montrer, Inch'Allah, voilà, il est ici, il est là, il est ici. Il lui a montré où il est et l'autre, bien sûr, il n'a pas eu la faveur de ceux qui vont être pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il s'est parlé dans la salat. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mais regardez les ulama. Regardez les ulama. Naam. C'est pour ça qu'on dit que Abu Hanifa, comme vous savez, c'était un alim qui se basait surtout sur le raisonnement. Parce qu'il était en Irak, et pas comme l'imam Malik, par exemple, l'imam al-Madina, qui vivait en plein Médine, connaissait beaucoup de hadiths. Il a écrit le Mawatta. Mais l'imam Abu Hanifa vivait en Irak. C'est pour ça qu'il a moins de hadiths. Parmi les quatre imams, c'est lui qui a le moins de hadiths et c'est lui qui a basé son fiqh et sa jurisprudence beaucoup sur le raisonnement. Parce que quand on n'a pas de hadith, on base sur le raisonnement. Il y a un homme, sa femme l'a énervé. Sa femme l'a énervé. Il lui a dit quoi? Attendez, comment ça s'est passé? C'est parce qu'il a voulu qu'elle dise une chose, elle n'a pas voulu dire. Il lui a dit, si tu ne parles pas, tu es talak. Yani, si le adhan du fajr dit si le adhan, tu ne parles pas, tu es talak. Il a dit à sa femme, place, il y a talak entre nous. C'était après l'Isha. Il lui a dit, si tu ne parles pas, tu es talak, tu es divorcé, si jamais le adhan du sobh appelle. Elle, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, alhamdoulilah, ça c'est une occasion que je cherchais depuis longtemps. Alhamdoulilah, donc je vais me taire jusqu'à ce qu'il fasse le adhan et je serai divorcé et je serai séparé de cette mauvaise personne, de cette méchante personne, de cette brute, etc. Elle a dit, alhamdoulilah, c'est une occasion en or. Donc je ne vais pas parler jusqu'à ce qu'il y a le adhan. Ensuite, on est automatiquement séparé. Parce que, allaqa talaqahu. Il a fait son talaq, il l'a laissé attaché par rapport au Eden. Ensuite, l'homme a essayé de la faire parler, elle n'a pas voulu. Ittaqillah, elle n'a pas voulu. Un Ali Bliss, elle n'a pas voulu. Je plaisantais. Yaoudi, ça va, on va se séparer, les enfants, etc. Elle se dit dans son cœur, Wallah, je ne vais pas laisser passer cette occasion. Yaoudi, parle pas. Bon, je t'achèterai ceci, je t'achèterai une bague, je t'achèterai une voiture, je t'achèterai je ne sais pas quoi. Il n'y a rien. Il a dit, donc maintenant je vais essayer de lui faire peur. Il a dit, je vais te frapper, je vais te brûler, il n'y a rien. Il a dit, c'est l'occasion de ma vie, je ne vais pas l'arracher, je ne vais pas la rater. Ensuite, il ne restait que peut-être une demi-heure ou là, une heure. Là, une heure moins quart ou là, une demi-heure, il a eu vraiment peur. Il a dit, la femme, je l'aime beaucoup, on va se séparer, il faut que je trouve une idée. Il est allé où? Il est allé chez Abu Hanifa. Il lui a dit, je suis vraiment dans le pétrin. Il faut que tu me trouves une solution très vite. Il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit à ma femme, si tu ne parles pas d'ici l'Adam du Fajr, tu es divorcé. Et elle ne veut pas parler. Je crois qu'elle veut qu'on se sépare. Il lui a dit, c'est très simple, Abu Hanifa, c'est facile. Il lui a dit, appelle-moi le Mu'adhan. Il a appelé le Mu'adhan. Il lui a dit, écoute, avant Salat Sobh, 5 minutes avant, va faire le Adam. Comme quoi, tu t'es trompé. Alors, l'autre, il est allé faire le Adam 5 minutes avant le vrai. Un faux adhan, 5 minutes avant le vrai. Comme quoi il s'est trompé. Dès qu'il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et l'homme était revenu chez sa femme, bien sûr. Elle a dit, Alhamdulillah, voilà, on s'est séparés, Alhamdulillah. Il lui a dit, on s'est séparés, on s'est pas séparés. Tu joues avec Abu Hanifa, toi? Toi, tu joues avec Abu Hanifa. Wallah, on n'est pas séparés, c'est pas le vrai Adam. D'ailleurs, il s'est tué, le Mu'adhdhan, il s'est tué. Parce qu'il a fait comme s'il s'était trompé. Il s'est tué. Cinq minutes après, il y a eu le vrai Adam. Ah, vous, les femmes, vous voulez vous séparer. Alhamdulillah, qu'on a des ulamas qui nous montrent comment vous, vous restez toujours avec nous. Tafadhal, prochain sou'al, inshallah. J'aime écouter le piano et on joue. Est-ce halal ou haram? Naam, inshallah ta'ala, c'est haram. C'est haram le piano. Tous on aime le piano, on aime la musique, on aime l'alcool, on aime toutes ces choses, mais on les laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah ne l'aime pas, ne les aime pas et châtie ceux qui font cela. À chaque fois qu'on écoute le piano et on en joue, à chaque fois que on sent que notre cœur n'est pas voué à pencher vers ce que Allah azza wa jalla aime, on n'est pas voué, on sent l'iman qui est daif, on sent pas qu'on a la, le plaisir de l'iman et aimer le Coran, etc. Pourquoi? Parce que notre cœur penche vers l'autre côté, il penche vers le côté de la musique, le côté des femmes, de l'alcool, tout ça c'est khizm, c'est un côté. Ensuite il y a de l'autre côté, il y a Allah, son prophète, son Coran, les sahaba, les livres, les tafsirs, la aqidah, tout ça, ça ne se rencontre pas. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah Azza wa Jalla n'a donné à aucune personne deux cœurs. Chaque personne a un seul cœur. C'est comme un verre. Dans le verre, ou bien tu mets de l'alcool, ou bien tu mets de l'eau, tu choisis. Tu veux l'alcool, tu mets l'alcool. Tu veux l'eau, tu mets l'eau. On ne peut pas les joindre. La même chose pour ton cœur. Tu veux préserver ton cœur, tu veux qu'il y ait l'iman dans ton cœur. Tu veux qu'il y ait dans ton cœur ce que Allah aime. Alors éloigne-toi de ces choses. Éloigne-toi de la musique. Elle est très dangereuse pour le cœur. En plus qu'elle est haram, elle est très dangereuse pour le cœur. Elle rend le cœur, elle rend le cœur. Yani, pour certains, hein, ils disent la musique adoucit les mœurs. Comme ça disent yani, les kofaris, etc. Mais si elle adoucit le cœur, elle l'adoucit vers Jahannam. Elle l'adoucit pas vers Allah. Non, elle l'adoucit vers Jahannam et ton cœur n'aimera jamais ce qu'il y a dans le Coran, etc. C'est pour ça que je demande à mon frère ou à ma soeur, de s'éloigner du piano et de la musique. Ce sont des péchés. Naam. Tafadhal, inshallah, prochain sou'al. Il y a deux questions au-dessus auxquelles vous n'avez pas répondu. Alors, inshallah, ne posez pas de questions, barakallahu fik, pour que je sache où je suis. Ne posez pas de questions pour que je monte un peu en haut et je cherche. Je disais, ne posez pas de questions, je vais les chercher en haut. Et je dis à mon frère ou à ma soeur qui vient de parler du piano, n'oublie pas qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, alors je te dis ce hadith, inshallah ta'ala, qui va t'aider, qui dit que quiconque laisse une chose, la laisse, yani il veut la faire mais il ne la fait pas, il la laisse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui en donnera mieux, pas seulement dans l'au-delà mais ici. Naam. Quand moi j'aime une chose, je ne la fais pas à cause que Allah ne l'aime pas et ne la veut pas, Allah azza wa jal dira voilà mon vrai serviteur, il sait que je n'aime pas cette chose, il la laisse, comme il a dit dans le hadith sahih du Bukhari, il a dit yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Naam. Il laisse son manger, hein, quand il fait le jeûne, sa boisson et ses tentations, il laisse sa femme à cause de moi, voilà quelqu'un que j'aime. Donc toi, si tu aimes le piano et tu le laisses, tu auras beaucoup plus de ajr que celui qui ne l'aime pas et qui le laisse. Mais toi, parce que tu l'aimes et tu veux jouer, tu le laisses. Ça, pourquoi tu l'as laissé? Pourquoi? Tu veux le faire parce qu'Allah ne l'aime pas. Là, je vais dire, celle-là, cette personne, c'est vraiment mon serviteur. Il ne fait pas ce qu'il veut lui. Il fait ce que je veux moi. Voilà la différence. Naam. Je vais chercher la question un peu en haut. Naam, je ne vois pas les adresses. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un frère vient de commencer salat. Un frère vient de commencer salat. Il ne connaît pas entièrement Sourate al-Fatiha. Doit-il prier avec le livre ou al-Fatiha est écrite en phonétique. On doit citer en disant Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Voilà, sinon c'est un chef. Là, elle dit, j'ai répondu, elle dit, j'ai répondu. Sujoud de sahw, prosternation, doit-elle se faire pour les prières obligatoires ou surrogatoires? J'ai répondu, j'ai dit qu'est-ce qui est pour les deux. J'ai répondu tout à l'heure, assez longuement. Naam, en wesmo, la salat fard, on ne peut pas prendre le livre. Le livre, on peut le prendre pour la nafila. Le livre, on peut le prendre pour la nafila, pas salat fard. C'est pour ça que celui-là, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, jusqu'à ce qu'il apprenne, Inch'Allah. Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, jusqu'à ce qu'il apprenne, Inch'Allah Ta'ala. Ousma Kabaziz, pose-moi les questions dans la salle, pas en privé, Barakallahu fik, pour que ce ne soit pas, yani, je peux pas me diviser. Pose-le dans la salle, Inch'Allah. Salam alaikum, ya Sheikh. Al-Uthaymin, dans les salles, fi hukm talik salat, a dit Imam Ahmed Rankafa, celui qui abandonne la salat par paresse. A-t-il émis deux avis et Sheikh Al-Bani rend-il daif le asar Abdullah ibn. Qu'est-ce qu'il a Shafiq. Naam. En ce qui concerne Sheikh Ibn Uthaymin, Allah yahmou, autre chose, il faut me dire qu'on va prier. Naam. En ce qui concerne. Cheikh Ibn Uthaymin, pas seulement Cheikh Ibn Uthaymin, beaucoup d'ulama ont dit que l'imam Ahmed a dit que c'est un kafir. Naam, j'avais dit tout à l'heure que l'imam Ahmed avait une deuxième riwaya, ça s'appelle riwaya. L'imam Ahmed a un deuxième avis. Cet avis se trouve dans son livre Al-Mughni, où il a été dit que c'est l'avis le plus sûr de Imam Ahmed. Imam Ahmed a deux avis. Celui-là, c'est le plus sûr et le plus basé dans, chez les Hanbalites. Que quoi? Qu'il n'est pas kafir. Parce que les ulama peuvent avoir deux avis. Comme Cheikh, Shafi'i, il avait deux avis. Un avis, un madhab quand il était en Irak, un madhab quand il était en Égypte. La même chose. Ici, Imam Ahmed a deux avis sur celui qui ne fait pas la prière. Le deuxième avis, c'est celui dont se base le plus les Hanabila, les Hanbalites, comme c'est dans le Mourni, où il est dit que quoi? Il est dit qu'il n'est pas kafir. En ce qui concerne ce qu'a dit ici rapporté par Tirmidhi, là-bas, on ne voyait pas quelque chose qui était kof, que là-bas, non, je ne sais pas, combien c'était, hormis la prière Naam, reste à prouver, c'est quoi le kof? Est-ce qu'il parlait du grand kof ou du petit kof? Naam. Parce que nous, quand quelqu'un ne fait pas la prière, on dit que quoi? On dit il est kafir. Mais quel kofre a-t-il fait? Il est kafir, il a fait le grand kofre, il a dit, ou bien il a fait le petit kofre. Voilà toujours là, la mouchkila qui reste là. Fadal, inshallah, prochaine question. Alaykoum salam, ma question. Y a-t-il un délai sur le fait de prier la salat chef juste avant 8? L'appellation de chef a-t-elle un délai? Maintenant, nous, nos parents, beaucoup de gens ont pris l'habitude, avant le 8, de dire salat chef. En principe, il n'y a pas dans la sunna salat chef. Toute salat qui a seulement deux rak'at, ça s'appelle salat chef. C'est pour ça que salat al-fajr est une salat chef, parce que c'est deux. Salat al-subh est une salat chef. Pourquoi? Parce que c'est deux. Et comme ça. Donc, chef, c'est père. 2, 4, 6, 8, tout ça, c'est chef. 8, c'est 1, 3, 5, 9. Maintenant, les gens ont pris l'habitude de dire il y a le chef et il y a le 8. Il n'y a pas de chef. Quand on termine Salat al-Isha, qu'est-ce qu'on fait? On fait Ratiba. Rawatib. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux. Deux après Salat al-Isha. Et après la Ratiba, tout ce que tu vas faire s'appelle 8. Après la Ratiba, ce que tu vas faire s'appelle 8. Le 8, ou bien tu fais une raka, ou bien 3. 5, 7, 9, 11 jusqu'à 13, tout ça c'est 8. Mais des fois, le 8 on le partage, des fois on fait 2, ensuite une seule, et des fois on groupe les 3 à la fois, on groupe les 3. Maintenant, la grande habitude chez tous les gens, c'est de diviser. Ils font 2, Ensuite, ils font le 8 un seul. Ils disent, hada c'est chef, hada c'est 8. Et ça, ce n'est pas vrai. Tout ça s'appelle 8. Tout ça s'appelle 8. Des fois, on le divise, on fait 2, ensuite 1. Des fois, on le fait d'un seul trait. On fait 3 à la fois. Mais on ne doit pas ressembler à Salat al-Maghrib. C'est-à-dire, on ne doit pas s'asseoir au milieu. On fait les 3 d'un seul trait. On ne s'assoit que la dernière fois avant de dire salam alaykoum. Naam. Inch'Allah, nouvelle session, tfaddal. Hayyakumullah, tfaddal. Il reste seulement 5 minutes, tfaddal. Naam, jazakillahu khairan, mubarakallahu fis. Allah n'ij'ala hada fi mizan hasanat. Un frère dit, un frère est encore étudiant, et il y a une sœur salafia qui étudie avec lui. Mais il ne commet pas avec elle. Et qui autorise qu'il essaye d'en savoir plus sur elle. Sa famille, sans qu'elle le sache, c'est parce qu'il essaye d'avoir son numéro de téléphone de sa maison pour sa maman, sans que ma mère doit. Qu'est-ce qui est grave? Ce n'est pas grave. On n'a rien fait de grave. Est-il autorisé qu'il essaye de savoir plus sur elle? Bien sûr, ce n'est pas interdit. Mais pas d'elle. Pas d'elle. Yani, il demande sur sa famille, il demande pas à elle, il demande aux gens, aux voisins, à ceux qui la connaissent, etc. Même sans qu'elle le sache. Et après, il demande son numéro de téléphone de sa maison pour contacter la mère de la fille. Même le numéro de téléphone, il ne le demande pas d'elle. Il ne le demande pas d'elle. Non, il ne le demande pas d'elle. Il le demande de ceux qui connaissent, de ceux qui peuvent lui amener son numéro. Non, je suis converti, j'ai donc très peu de notions en arabe. Barakallahu fikoum, attendez pour les questions. Quand vous écrivez les questions, j'ai la fiche qui monte. Hein. Comme ça, ensuite, les questions, je ne peux pas les voir quand elles montent au haut. Je suis converti, j'ai donc très peu de notions en arabe. J'ai appris seul. J'arrive à lire le Coran tous les jours, alhamdoulilah. J'y passe un peu de temps, mais j'ai un gros problème pour apprendre les sourates. Et mon mari, travaillant beaucoup, je ne sais pas comment faire pour avancer dans mon livre et réussir à apprendre le Coran plutôt que de le lire. Vous conseillez-vous, Achir, pour avancer chaque jour dans mon apprentissage, j'ai l'impression de ne pas avancer. Naam. Question pour avancer, Inch'Allah Ta'ala. On fait beaucoup de dua à Allah Subhanahu wa Ta'ala et on n'attend pas un autre. On n'attend ni son mari, ni son voisin, ni quelqu'un, ni mon frère ou le qui va m'apprendre. Je connais des gens qui n'ont jamais été à l'école, jamais dans leur vie, qui n'ont appris l'arabe. Et tellement ils ont fait de dua, là je les ai aidés, ils commencent maintenant à ouvrir le Coran, ils le lisent comme on dit nous. Ils le lisent normalement et chaque jour, etc. Pourquoi? Ont fait beaucoup de doigts, Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés. Il n'y a la mille fi qulubikum khayran ou qui comprennent. Ne vous laissez jamais dépendre de quelqu'un. Ce quelqu'un, ensuite qui ne vient pas, ensuite il est malade, ensuite il travaille, ensuite il est feignant, ensuite. Mais je me base toujours sur soi-même, sur moi-même. Je fais beaucoup de doigts, Allah subhanahu wa ta'ala et j'essaie d'apprendre au maximum moi-même. Et ce que j'apprends, je le montre aux autres parce qu'il est possible que j'apprenne faux. Il est possible que ce que j'apprends, c'est faux. C'est pour ça que je demande toujours l'avis de ceux qui connaissent. De toute façon, je voudrais te dire pour le Coran, pour une convertie, c'est un peu difficile. Tu apprends seulement quelques sourates pour faire la salat. Quelques sourates pour faire le salat. Mais le plus important, c'est de comprendre le din. Comprendre le din. Et comprendre le din pour un converti, ce n'est pas comprendre le Coran. Il ne peut pas lire le Coran et le comprendre. Mais il assiste aux doses de fiqh, doses de aqidah, doses de tawhid, doses de sira, et comme ça. Yani, lire beaucoup de livres, des ulama, etc. Voilà pour comprendre, pour qu'il avance un peu dans le din. Sinon, il sent que, tant qu'on sent qu'il n'y a rien de nouveau, on n'avance pas. Si tu veux avancer dans le din, il faut que chaque jour, tu apprennes quelque chose. Chaque jour que tu apprennes, tu sens que tu as appris quelque chose de nouveau. Même si c'est quelque chose de halal ou haram. Tu as appris aujourd'hui, par exemple, il y a un shaitan qui vient, etc. Il s'appelle Khinzab et tel fils ceci. Tu as appris aujourd'hui, par exemple, que Salat Ratiba, on peut la faire après. Tu as appris aujourd'hui, tout ça, c'est ilm, et tout ça, Allah Azzawajal te donne un ajr. Un ajr pour avoir assisté, pour avoir appris des choses. C'est pour ça que je te dis pour le Coran, lis-le. Lis-le en tant que récitation, même si tu ne comprends pas, tu lis, tu as un ajr. Et tu apprends seulement les sourates avec lesquelles tu fais la salat. Mais il faut fiqh fi din, fiqh c'est-à-dire la jurisprudence du fiqh. Il faut apprendre beaucoup de choses, apprendre dans la salat, apprendre dans le siyam, apprendre dans les mosquées, apprendre beaucoup, beaucoup de choses. À chaque fois qu'on apprend, à chaque fois qu'on sent qu'on avance. Et quand on n'apprend pas, on sent qu'on est stagné, on sent qu'on revient marche arrière. Ensuite, on se dit, là, il n'y a pas de différence, etc. Alors, moi, j'arrête. Inch'Allah, la prochaine fois, je vais commencer la prière. Après, la prochaine fois, Inch'Allah, je vais apprendre. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Naam. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide, qu'il t'ouvre ton cœur, qu'il t'ouvre ses portes, et qu'il t'apprenne beaucoup dans son din, et qu'il te rende, Inch'Allah ta'ala, les plus heureuses. Prochain sou'al, Inch'Allah. Il est 0:30 au Koweït. Ne posez plus de questions. Là, je pose plus de questions. Il est 0:30. Allez, on ajoute un peu, parce que demain je travaille pas. Allez, on ajoute encore une demi-heure, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à 1h du matin, c'est-à-dire. Inch'Allah, 1h du matin, on ajoute encore une demi-heure, Inch'Allah. Et ceux qui veulent aller dormir, qu'ils aillent, Inch'Allah ta'ala, dormir. Ils font les doigts avant de dormir. Inch'Allah ta'ala, et les autres, ils écoutent. Salam alaykoum, un frère a fait sa prière dans sa voiture assis, car il pouvait pas s'arrêter à l'heure de la salat d'or. Salat d'or allait sortir. Est-ce bon ou fallait-il attendre pour prier debout, non dépassant l'heure, barakallahu fik. Naam. Est-ce que ce frère conduisait, c'est lui qui conduisait ou là il était assis à côté? Je veux la réponse à cette question. Est-ce que c'est lui qui conduisait ou là il était assis à côté ou là derrière? J'attends la réponse. Inch'Allah, une autre question, le temps que la réponse m'arrive. Inch'Allah, une autre question. Naam, puisqu'il conduisait, en principe, il doit s'arrêter. Car il conduit, qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'arrêter pour faire la prière. Il doit s'arrêter, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêtait, il descendait du chameau, il descendait du cheval, il descendait de l'âne aussi, et il faisait la salat. Je ne vois pas pourquoi celui-là il ne va pas s'arrêter. Un frère a fait sa prière dans sa voiture assis, car il a trouvé il ne pouvait pas s'arrêter à l'heure de salat d'or. Allez sortir, est-ce bon, hein? Je ne sais pas pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter. Il doit s'arrêter comme il s'arrête pour aller aux toilettes. Non, quand il veut aller aux toilettes, il est obligé de s'arrêter pour aller aux toilettes. Maintenant, il doit s'arrêter pour faire la prière 2 ou 3 minutes. Ensuite, il monte dans sa voiture. Mais s'il était assis à droite ou là derrière et qu'il ne pouvait pas commander celui qui conduit, par exemple, c'est son père ou là il ne veut pas s'arrêter, son père, là, c'est un chauffeur qui ne veut pas s'arrêter ou là, celui-là il l'a fait assis. Il l'a fait assis et il ne laisse pas la prière sortir de son heure. Mais quiconque peut s'arrêter, il doit s'arrêter. Quiconque, c'est sa voiture, c'est lui qui conduit. Il peut s'arrêter, il arrête pour faire la prière 2 ou 3 minutes. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, beaucoup de questions ont été posées à la fois. Comme Sakina. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que la femme est responsable si son mari ne fait pas salat à l'heure? On ne la fait pas à la mosquée, n'étudie pas sa religion, ou ne serait-ce que faire des doigts quotidiens? La femme n'est pas responsable. La femme n'arrête pas de lui faire les nasiha. La femme n'arrête pas de lui faire les nasiha. Non, elle n'arrête pas de lui faire les nasiha. Ya fulan, ittaqillah, ya fulan, la mosquée n'est pas loin, ya fulan, l'homme c'est pas comme la femme, etc. Maintenant, s'il veut pas, il l'a fait à la maison, c'est pas elle la responsable. C'est lui le responsable, billah azza wa jal. Lui, elle essaie seulement de lui faire des nasiha. Et si elle est capable, Allah, yani, le cœur un peu yani, raffermi, elle a le cœur assez yani, fort, assez solide, elle peut même yani, se vexer à cause de ces choses, etc. Et lui, ensuite, quand il remarque que c'est quelque chose de pour elle, quelque chose de vraiment d'important, peut-être même pour lui faire plaisir à elle, il commence, Allah ta'ala, à faire la prière à l'heure et à aller à la mosquée, etc. Mais, comme j'ai dit, elle fait son maximum, au moins lui montre qu'elle n'est pas yani ravie de ce qu'il est en train de faire. Naam. Cheikh, si on voit après sa salat qu'on avait une petite trace de peinture sur l'ongle et qui n'était pas partie lorsqu'on avait fait l'ablution, est-ce que l'ablution est valide sachant que cette trace est extrêmement petite, même pas 5 mm, et doit-on refaire la salat? La réponse, inshallah ta'ala, la réponse, cette trace qui n'est pas partie, cette trace qui n'est pas partie, si on sait que à travers cette trace n'est pas passé l'eau, même si un millimètre de notre peau n'a pas été touché, on doit refaire quoi? On doit refaire l'ablution et la salat. Maintenant, si c'est vraiment yani petit, vraiment petit, yani cette peinture yani n'est pas même pour le stylo. Non, pas pour le stylo. Là, le stylo non. Le stylo il laisse passer l'eau. Je parle de yani comme ce que font les femmes sur les ongles, ce que font le rouge aux ongles, etc. Hada, il ne laisse pas l'eau passer. C'est pour ça que cette personne doit regarder si la partie qu'elle a laissée a empêché l'eau de passer et empêche l'eau de passer, de préférence elle refait l'eau d'eau et la salade. Mais si elle est sûre que ce n'est rien, mais si on ne sait pas si ça a empêché l'eau, non, si on ne sait pas si ça a empêché l'eau, et si c'est vraiment yani, vraiment futile, vraiment petit, c'est futile, c'est pas la peine de refaire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un des fois, il a vu faire le haut d'eau, il a laissé comme ça, yani, comme le lof, comme un angle. Il a laissé comme l'endroit d'un angle sans mettre de l'eau. Il lui a dit, Aïd, yani, arja ahsin le haut d'eau. Va refaire le haut d'eau. Il a refait le haut d'eau, il a refait la salat. Donc nous on voit si c'est quelque chose yani, qui est assez importante, qui a empêché l'eau, même si c'est petit, je dis même si c'est petit, comme un angle, on refait. Maintenant si c'est très petit, yani, quelques millimètres, il est très petit, il ne faut pas rentrer inshallah ta'ala dans le ouest. Il ne faut pas rentrer inshallah ta'ala dans le ouest. Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. تفضل إن شاء الله. Je sais pas si vous avez posé des questions parce que j'étais deux. السلام عليكم. ورحمة الله. Je suis atteint d'une maladie de sang rare qui peut s'aggraver. Prise en charge tout au long de ma grossesse par un médecin. Non, parce que je crois que ça se coupe. Si ça se coupe, vous m'écrivez ensuite dehors pour savoir que ça se coupe.
Oui. Donc on va, Inch'Allah, je vais faire soin d'une personne qui sont présents, Inch'Allah. Le chef est encore retenté une seule fois. Oui, Alhamdoulilah, s'il arrive à avoir du son, il pourra continuer, il continuera, Inch'Allah. Et sinon, on termine la ronde, Inch'Allah, s'il a un journal sur YouTube, il dit que ça n'a rien à expliquer. Il y a déjà ce métal, Inch'Allah, il est traduit, Inch'Allah. Il faudra que l'on puisse m'en faire comme
elles ont un cerveau, elles sont assez âgées, elles sont plus bas, elles ont un niveau de responsabilité. Toi, madame, إن شاء الله تعالى تجد فيه حلول كثيرة حتى في نفس العين. هنا يذكر بعض الآثار أنك تستطيع أن تأتي مثلا بثوب من ديل أو كذا للعائن ويعني تبخر به وكذا وتشرب منه. اقرأ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فإنه مفيد جدا في هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم. أم سكينة تفضلي. أم سكينة. أم سلمة. أم سلمة. أم سلمة دو تفضلي. Troisième personne, t'as pas d'aller au Selma. Je suis en train de rattraper le temps qui est passé quand je vous ai donné une demi-heure. Il y a une soeur qui se demande pour son père. Allah Yarhamou, il faisait pas sa prière, mais il rendait service aux gens, il faisait du bien. Quand on a peur de la mort et on pense toujours à la mort, est-ce que c'est un doua, un dors humain? Non. Sa soeur qui pense à son père, qui ne faisait pas la prière, et faisait beaucoup de bien, etc. Hada, pourquoi il ne faisait pas la prière? Allah Azza wa Jal sait. Allah Azza wa Jal sait. Ne pas faire la prière est un grand péché. Si ce n'est pas un coffre, pour ceux qui disent ce n'est pas un grand coffre, c'est un petit coffre. Si c'est un petit coffre, ça veut dire que c'est un grand péché. Mais s'il reconnaissait qu'il y avait la prière, c'est-à-dire seulement il était fainéant, etc., فهو تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. N'empêche que tu lui fais des doigts, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, quand on a peur de la mort, on pense toujours à la mort. C'est un dhahf al-iman. Au contraire, plus on pense à la mort, plus c'est un dalil que notre iman est bien. Et plus on oublie la mort, plus c'est un dalil que yani, ce bas monde, yani, khlas, c'est lui qui nous guide. Yani, notre cœur khlas, est souillé. Et plus on pense à l'au-delà et à la mort, plus ça veut dire inshallah ta'ala que quoi, que notre iman est bien. Comme a dit le prophète sallam, le prophète sallam a dit il faut yani, faire beaucoup d'invocations de la mort. Il faut beaucoup se souvenir de la mort et invoquer beaucoup. Donc inshallah ta'ala, tu es dans le vrai. Termine comme ça inshallah ta'ala. Abu Hassan, tafaddal. Abu Talib, je commence par ceux qui ont levé la main. Alaykoum salam, j'ai une suggestion à vous faire. Pourquoi vous ne registrez, non, c'est pas beaucoup, dans les mêmes, de les mettre sur vos sites, ou blogs, afin que ceux qui sont absents peuvent profiter de beaucoup. Qu'en pensez-vous? Barakallahu fik Abu Hassan, je voudrais te dire une chose. Jazakallahu khair pour ce que tu as dit, ça. Mais le blog ne permet pas ce que tu veux, toi. Naam. Le blog ne permet pas d'enregistrer des cours et de les mettre là-bas. Pour cela, il faut un site. Pour pas un blog, il faut un site. Et moi, j'ai toujours essayé de faire un site. J'ai jamais su comment, ni j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide. Donc, dans le blog, on peut pas faire des doros. Dans le blog, il te permet pas de faire un daf qui dépasse une heure ou là une heure et demie. Il te permet seulement quelques minutes. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Comme Sakina, tafaddali. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est moi qui ai posé la question pour ma maladie de sang. Naam. Pour avoir plus de précision, en fait, ma maladie est génétique. Donc, je la garde à vie, j'en souffre pas. Je me porte très bien, sauf quand je suis en grossesse, quand je suis dans mon petit, pour quelle raison que ce soit, quand je fais de longs trajets. Naam. Tu as autre chose à dire ou là tu as terminé? Naam. Naam. Je disais tout à l'heure, les gens, cette maladie est peu connue, naam, cette maladie est peu connue, Allah subhanahu wa ta'ala ni shfiyaki minha, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shayin qadir. Et il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas connues qui vont venir. Il y a beaucoup de maladies très graves qui vont venir dans l'avenir. Naam. Maintenant, il y a le sida, il y a le cancer, il y a encore beaucoup plus d'autres qui vont venir. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de quoi? À cause des grands péchés qu'on fait devant les gens. Si les gens faisaient les péchés, ils se cachaient, ça aurait été moins grave. Maintenant, les gens font les péchés comme ça devant tous les gens, à la télévision, Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. C'est pour ça que maintenant on va être puni par quoi? Par les grandes maladies. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat. حتى معنى الحديث هو صحيح حتى يبتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, yani, tant que, il a dit, le jour où le grand péché, comme la zina, etc., se fera comme ça, fahisha, devant tout le monde, alors Allah Azzawajal va les punir en leur donnant des maladies qui n'étaient pas chez leurs grands-parents. Non. Jamais notre grand-père n'a été atteint de sida, ni notre grand-père a été atteint de cancer, il y a 20 ou 30 ans. Tout ça, c'est nouveau. Et les maladies qui vont venir très bientôt, Allah l'afia, elles vont laisser les plus grands docteurs du monde, les plus grands spécialistes perplexes et étonnés. Naam. Ils vont s'étonner de certaines maladies, comment qu'elles sont venues. Regardez, comme par exemple maintenant c'est la vache folle, ensuite c'est la poule, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, on bat le mouton, on bat l'autre. Maintenant qu'on sait, je ne sais pas comment qu'elle s'appelait avec la maladie, avec influenza, avec comment ça s'appelle en français, je ne sais pas. Maintenant il faut prendre garde des oiseaux, hein, les oiseaux qui volent, ils ramènent à la influenza. Maintenant il faut, hein, pour tout ce qu'on reste, on reste sur les frontières avec un fusil de chasse et on attend si un oiseau ou un pigeon passe par là, on doit le descendre pour qu'il ne rentre pas avec la maladie. Ce pigeon c'est qui? Ce pigeon c'est un soldat de Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé avec les microbes et les virus, etc., pour nous châtier. Toi tu vas à interdire à un oiseau de rentrer. Ensuite, Allah Azza wa Jal va faire de sorte que ce sont les fourmis qui donnent le virus à Adam. Toi, tu vas tuer les fourmis, tu vas chercher où sont les fourmis pour les tuer. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Là, je disais que quelqu'un qui est dans un pays de coffre, tant qu'il a dans le cœur que dès qu'il peut, il fait la hijra, alhamdulillah, il a quelque chose dans le cœur. Mais ce qui est grave, c'est quand quelqu'un n'a pas cette chose dans le cœur. Il est là, il se dira, masha'Allah, je suis bien ici, il y a l'euro, il y a tout, tout est permis, tout est facile, tout est simple, tout est... Celui-là, c'est grave pour lui. Mais celui qui a dans le cœur, que je me guéris et je pars, j'amasse un peu d'argent et je pars, je fais ceci et je pars, celui-là, au moins, il a l'idée et l'intention de partir. Car l'autre, qui dit, je suis bien, etc., je pars pas, celui-là, s'il meurt, c'est vraiment difficile pour lui. De mourir dans un pays de kafir. Oum Salama, tafaddali. La dernière question, inshallah. Oum Salama, tafaddali. Fiki barakallah. Oum Salama. Oum Salama, la dernière question, inshallah. Tafaddali. Je ne vois pas la question d'Oum Salama. Je crois qu'il y a. D'accord. Oum Salama, n'écris pas tout à la fois. N'écris pas tout à la fois. Écris des phrases, ensuite send. Des phrases et tu envoies. N'écris pas tout à la fois. Coupe le paragraphe en phrase. Coupe le paragraphe en phrase, Inch'Allah Ta'ala. Voilà la question d'Oum Salama. Elle a dit, Marie voudrait savoir si on peut assister au repas d'un mort sans le manger. Ça se déroulera au Jama'a, je crois, à la mosquée. Si on peut assister au repas d'un mort sans le manger. Celui qui peut ne pas assister n'assiste pas. Celui qui peut ne pas assister, n'assiste pas, ça rentre dans la bid'ah. Ça rentre dans la bid'ah que quelqu'un meurt et que nous, on nous invite ou là, on va chez la famille du mort, on s'assoit à table, on boit, on mange, on fume les cigarettes, on discute, on plaisante, on rit. Ensuite, des fois, tu passes devant des gens qui ont posé des tables devant une maison, tu ne sais pas, tu demandes, est-ce un mariage ou là une mort? On te dit, non, c'est une mort. Pourquoi tu as pensé que c'était un mariage? Tu dis, oh là, je crois que c'était un mariage. Tout le monde riait, tout le monde fumait, tout le monde mangeait, masha'Allah. Quand ils terminent de manger, ils disent, ajoutez-nous des fruits, ajoutez hamahlou, ajoutez tcharek. Celui-là, je ne vois pas, si vraiment yani, il avait senti quelque chose, yani, du mort, il n'aurait pas pu manger. Donc quand on va chez un mort pour lui dire, yani, lillah ma akhad wa lillah ma a'ta, on mange pas de préférence, on mange pas. Non, on ne mange pas, on fait le maximum pour ne pas manger. On fait le maximum, même pas pour ne pas s'asseoir. Si on peut ne pas s'asseoir, on ne s'assoit pas. On dit seulement le doua. Si on ne connaît pas le doua, on dit comme a dit Cheikh Al-Albani, on lui dit des phrases qui ne sont pas loin du doua. C'est-à-dire, on lui dit par exemple, Azam Allahu Ajrak. Il y a dans certains pays, on dit Azam Allahu Ajrak. Cheikh l'Albani a dit ça, se dit, maalesh, tu ne connais pas le doua, ou là l'autre, il ne va pas comprendre ton doua. Tu lui dis des mots qui raffermissent son cœur. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à votre mort. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fasse patienter. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il descende ce qu'il n'a fait qu'oulubikum. Et des choses comme ça. Et tu pars. Mais quand il reste et manger, etc., tout ça, ça rentre dans la bid'a. C'est quelque chose que vraiment de pas bien. Donc, pour mon frère qui va à la mosquée Ada, il vaut mieux s'éloigner d'Ada Miyit. Ils ont fait un repas ou là. Éloigne-toi, Barakallahu Fik. Éloigne-toi, Barakallahu Fik, puisque c'est pas obligé. C'est pas obligé que tu assistes à ce repas. Soit tu dis à la personne, Adam Allahu Ajrakum, ou bien tu dis le dua, et tu leur dis, pardon, j'ai affaire. Et tu n'as pas menti, tu as affaire. Non. Tu vas à la maison, tu as la femme qui t'attend, et les enfants, et la salat neuf est là, et lire le Coran. Tu as affaire, tu n'as pas menti. Non. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Le but de la vie, je t'ai pas vu, tfadlal. Le but de la vie. Comment tu as pu lever la main? Tout le monde a le point rouge. Tfadlal, le but de la vie. Salam alaikum. Peut-on savoir comment on peut savoir que un hadith est sahih, ou voir son origine? Est-ce possible dans les hadiths faux? Est-ce que c'est possible que des hadiths faux sont dans des sahih comme Bukhari et Muslim? Le hadith sahih, c'est un hadith qui remplit 5 conditions. 5 conditions. Il y a qu'on a fait istisal, il y a qu'on a laissé fi metni shudud wa la illa, il y a qu'on a fait istisal sanad. Non? Il faut 5 conditions. Ces conditions, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas n'importe qui peut les savoir. Ce sont des gens qui se sont spécialisés dans ilm al-rijal, la science des rapporteurs. C'est-à-dire, au point où, maintenant, quand quelqu'un gagne, par exemple, à voler ou là, une chose pareille ou là, qu'est-ce qu'on fait? Au commissariat, il voit dans l'ordinateur en une seconde, il fait sortir la fiche. Il dit celui-là, par exemple, rien à signaler. Il te dit celui-là, c'est un criminel. Celui-là, récidiviste. Celui-là, qu'da. La même chose, les ulémas ont fait autrefois pour que les hadiths soient, pour qu'on sache quels sont les vrais hadiths et qu'on sache quels sont les hommes, les rapporteurs qui ont des problèmes. Les menteurs, les innovateurs, ceux qui oublient, ceux qui n'apprennent pas bien, etc. Donc, ça, c'est quelqu'un comme Cheikh Al-Albani. Qui peut faire ça? Bien sûr, moi, toi, Inch'Allah, on peut le faire, mais tu dois rester des années, 20, 30, 40 ans, en train de connaître la vie de ces gens, les rapporteurs, connaître toute leur vie, qu'est-ce qu'on a dit sur eux, etc., pour arriver à dire que tel homme, par exemple, tel rapporteur est valable. Et donc, après, tu commences à voir les hadiths. An Poulan, Haddatana Poulan. Tu regardes ce foulan, est-ce qu'il remplit les conditions? Est-ce qu'il remplit les conditions? Et tu vois le hadith n'a pas été contredit par un autre hadith, tu dis par exemple c'est un hadith sahih. Donc le Bukhari, tout ce qu'il y a dans le Bukhari, c'est sahih. Seulement Muslim a 4 ou 5 hadiths qui sont faibles. C'est pas faire une différence entre hadith faible et hadith faux. Hadith faible. Tout ce qu'il y a dans le Bukhari est sahih. C'est pour ça qu'il est le deuxième livre après le Coran. Le Bukhari, c'est le deuxième livre qui vient après le Coran. Et le troisième livre, c'est Muslim. Et il comprend 3 ou 4 ou 5 hadiths qui sont faibles, c'est tout. Faibles. Pourquoi? Parce que Muslim est très connu que yani, c'était quelqu'un de science, quelqu'un de spécialiste dans l'ilm al-hadith. Mais n'empêche qu'il a rentré dans son livre 3, 4 ou 5 hadiths qui sont faibles. Par exemple, le hadith qui est dans le Bukhari, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit 7 personnes, Allah Azza wa Jal les mettra sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le 5e ou le 6e, qu'est-ce qu'il a dit le hadith? Il a dit un homme, il a fait une aumône avec sa main droite. Il l'a caché au point où sa main gauche n'a pas su ce qu'il a fait. Donc il a dit un homme qui a fait Rajul Tasaddaqa Biyamini, il a fait l'aumône avec sa main droite au point où sa main gauche n'a pas su. Ça c'est le Bukhari. Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le 6e, et un homme qui a fait l'aumône avec sa main gauche au point où sa main droite n'a pas su. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé le hadith. Donc il est devenu daif. Pourquoi? Parce que le hadith renversé. Donc il s'est trompé. Au lieu de dire ça, il a dit l'autre. Ça, c'est un exemple. Dans le Bukhari, il y a un hadith qui dit 70 000 vont rentrer au paradis sans hisab, sans calcul. Il a dit qui? Le prophète, il a dit هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. Il a dit هم الذين لا يسترقون. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. لا يسترقون. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. Muslim, quand il a noté ce hadith, au lieu de dire لا يسترقون, ne demande pas la ruqya, il a dit هم الذين لا يرقون. Il a enlevé le F. Qu'est-ce qui est devenu? Layirkun au lieu de Layistirkun. Layistirkun ne demande pas la ruqya et Layirkun ne font pas la ruqya. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux faire la ruqya. Ce qui n'est pas bien, c'est celui qui demande la ruqya. Mais celui qui fait la ruqya, c'est bien. Parce que lui, il est en haut et l'autre, il est en bas. C'est l'autre qui demande et toi tu fais. Toi, tu fais un service aux gens. Donc, ils ont dit ce hadith aussi. C'est quoi? C'est chèvre. Pourquoi? Parce qu'il a contredit le hadith du Bukhari. Ensuite, dans Muslim, il est dit que Allah Azza wa Jal a créé la terre en 7 jours. Parce qu'il a cité 7 jours. 7 al-Hadith, tu comptes, tu trouves 7. Alors que le Coran a dit que Allah Azza wa Jal a créé la terre ici en 6 jours. Ils ont dit c'est un hadith daif. Ensuite, dans Muslim, il a dit que le prophète, quand il a fait la prière de Salat al-Khusuf, il a dit que il a fait 3 recours dans un recours. 3 recours dans un recours. Alors que le Bukhari a dit, il a fait 2 recours dans un recours. 2, pas 3. C'est en ce sens que les ulama ont dit, donc, le Wasmuhada, Muslim, a 3 ou 4 ou 5 hadiths qui sont faibles, c'est tout. Mais ce n'est pas grave, ils sont connus. Et puis c'est un grand alim. Et puis, il n'a pas inventé des choses de ses têtes. Yani, de sa tête, il s'est trompé, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé. Si j'ai dit faux, c'est moi et mon shaitan. Mon shaitan qui est toujours avec moi, il est toujours en train de tourner autour de moi. Il me fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Fa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah ta'ala, s'il y a, comme j'ai dit, des sœurs de Bordeaux, qui inch'Allah étaient oubliées le mail. Et inch'Allah ta'ala, on se rencontrera inch'Allah ta'ala samedi. Naam, samedi pour la aqidah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت